Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture. Et merci de nous avoir rejoints nombreux ici dans le très bel amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France qui accueille pour la première fois la Nuit des idées dont le thème est cette année Être vivant pendant 1h40 avec Chloé Cambrelin et moi-même. Donc le temps du débat vous proposera 5 débats de 20 minutes chacun, 5 face à face autour de 5 thèmes, Chloé.
Quelle loi pour le vivant ? La prévision est-elle une illusion avec comme point d'entrée pour cette question la réforme des retraites ? L'effondrement est-il attirant ? Le débat est-il impossible sur l'immigration ? Et enfin, les artistes sont-ils au-dessus des lois ?
Pour le premier de ces débats, nous accueillons Alain Fischer. Alain Fischer, médecin, professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur en biologie, spécialiste de thérapie génique, titulaire de la chaire médecine expérimentale, ici même au Collège de France. Bonsoir Alain Fischer. Et puis Isabelle de Gaulmin, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef à La Croix et autrice chez Bayard de « Les cathos n'ont pas dit leur dernier mot » qui vient tout juste de sortir. Mardi prochain devrait être voté au Sénat le projet de loi bioéthique qui a donné lieu à d'intenses débats tout au long de l'automne à l'Assemblée nationale, au Sénat et bientôt à nouveau à l'Assemblée nationale. Un projet de loi profondément modifié qui nous donne l'occasion de croiser le thème de cette nuit d'isier, donc être vivant, à notre émission spéciale. Et nous nous demandons, pour commencer, quelle loi faut-il pour le vivant ? D'abord, Alain Fischer, peut-être, pourquoi faut-il réviser aussi fréquemment les lois bioéthiques ? Pourquoi est-il nécessaire d'y revenir aussi souvent ?
Alors, le thème de cette discussion concerne les lois pour le vivant. Je pense qu'il faut prendre une minute ou 30 secondes, nous verrons bien, pour dire que pour qu'il y ait des lois pour le vivant, pour qu'il y ait une logique à cela, qu'il y ait un besoin, c'est qu'il y a des lois du vivant. Mm-hmm. C'est-à-dire que le vivant, à travers les progrès des connaissances, se définit de mieux en mieux, on en connaît son unicité, partagée par l'ADN et l'acide désoxyribonucléique et l'ARN, le support de la génétique, qui est commun absolument à tous les êtres vivants, des archéobactéries jusqu'à l'homme, en passant par les plantes et les animaux, etc., etc. On en connaît la grande diversité, on en connaît le fait que le vivant évolue, qu'il s'adapte, sa plasticité est absolument extraordinaire, entre espèces, mais aussi même au sein d'une espèce. L'évolution de l'homme au cours de ces 200-300 milliers d'années passées est juste fabuleuse et on commence à la comprendre. Donc il y a une acquisition permanente de connaissances, c'est le fruit de la recherche scientifique, et dont le reflet, heureusement ou malheureusement, peu importe du point de vue qu'on se passe, c'est la complexité. Mais malgré cette complexité et malgré les limites du savoir, nous sommes dans une situation où des progrès de connaissances peuvent permettre, j'arrive à votre question, pardon de ce préambule, à se poser des questions d'intérêt, de santé, d'améliorer le bien-être de la population, d'améliorer l'espérance de vie. On sait à quel point l'espérance de vie s'est améliorée au cours de ces 100-150 dernières années, pas beaucoup avant, malgré les inégalités qui persistent. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Et forcément, ces progrès appellent des interrogations, et donc des interrogations répétées incessamment compte tenu de l'accumulation des progrès. Et donc cela justifie pleinement que lorsqu'il faut maintenant légiférer, réfléchir sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, il faille y revenir souvent. Et on peut aussi ajouter, indépendamment des connaissances scientifiques, que les mentalités, la perception des questions évoluent avec le temps et que cela aussi justifie que la réflexion perdure et donc éventuellement que des lois se modifient tous les 5 ans, tous les 7 ans.
Chloé Cambrelin.
Alors justement, à l'occasion de ces débats au Parlement sur ce projet de loi bioéthique, il a beaucoup été question dans la société, dans le débat public, pas au Parlement, mais dans la société. On a beaucoup centré les débats autour de la PMA, de la GPA, qui d'ailleurs n'est pas dans le texte. Or, il y a beaucoup d'autres sujets dans ce projet de loi qui concernent, qui intéressent toute la société et dont on a beaucoup moins parlé. Est-ce parce qu'ils sont beaucoup plus techniques ? Et de ce point de vue, Alain Fischer, est-ce qu'il ne faut pas justement, peut-être, faire un effort de pédagogie pour que ces sujets techniques, eh bien, la société dans son ensemble puisse s'en emparer et en débattre ?
Certainement. Je suis pas sûr qu'on va y arriver en 20 minutes ou en 18 minutes restantes, mais on peut essayer. Je voudrais peut-être aussi ajouter un petit mot. C'est évidemment, nous sommes dans le cadre de la réflexion autour des lois de bioéthique. Mais à mon avis, cette réflexion dépasse les lois de bioéthique, mais reste dans le domaine de la loi, car des considérations autour de la santé sont du domaine de la santé publique, sont des considérations de nature socio-économique, à vrai dire politique, et donc rejoignent des questions de politique qui sont débattues dans d'autres contextes législatifs. Il est possible qu'on en parle tout à l'heure, on le verra bien. Bien évidemment, la PMA a occupé le devant de la scène sur le plan médiatique et même aussi dans la réflexion en amont à travers les états généraux qui ont eu lieu. Mais il y a bien d'autres sujets, et si, dans la suite de ce que je disais tout à l'heure, un évident progrès des connaissances concerne la génétique. Notre capacité aujourd'hui extraordinairement rapide de séquencer les génomes humains ou de tout être vivant, ou des anciens humains par exemple, ce qui permet d'étudier l'évolution. Et de la génétique découlent beaucoup de possibilités d'application médicale. Un certain nombre de points qui ne font pas débat éthique autour du diagnostic des maladies génétiques héréditaires, autour de l'aide au diagnostic au traitement des cancers par exemple, il n'y a pas débat là-dessus. Mais ensuite, on arrive à des sujets plus délicats, qui est par exemple ce qu'on appelle le conseil génétique pour les familles à risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie héréditaire grave. Est-il légitime d'utiliser les moyens de la génétique pour prévenir la vie d'un enfant atteint d'une telle pathologie? Donc on arrive aux questions de diagnostic prénatal qui est en France établi, heureusement de mon point de vue. On arrive à ce qu'on appelle au diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire un diagnostic non pas chez le fœtus, mais chez un embryon qui a été généré in vitro, qui est autorisé sous certaines conditions en France, qui est objet de débat, c'est peut-être un tout petit peu trop technique, aujourd'hui dans le cas de la loi de bioéthique. Mais il y a des questions qui vont plus loin. Par exemple, on est capable de dépister les personnes à risque de transmettre à leurs enfants une maladie génétique grave, par exemple la mucoviscidose ou une myopathie, etc., etc. Donc on pourrait envisager, ce qui se fait dans certains pays, de dépister systématiquement, si les personnes le souhaitent, un futur couple, pour savoir si ce couple est à risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique grave, sachant l'handicap, l'enjeu majeur que cela représente, les souffrances terribles que cela représente. En France, ce n'est pas autorisé. Et ce n'a pas été mis au débat, en tous les cas, par le gouvernement, malheureusement, de mon point de vue, mais ça existe dans certains pays.
Alors, Isabelle de Golemin, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à La Croix, que vous avez écrit un livre qui s'intitule « Les cathos n'ont pas dit leur dernier mot ». Sur cette question-là, d'ailleurs, non plus, les cathos n'ont pas dit leur dernier mot.
Non, ils n'ont pas dit leur dernier mot, et effectivement, un certain nombre de catholiques ne se sentent pas forcément à l'aise avec la révolution anthropologique qui se manifeste à travers ces lois. Parce que, à mon avis, si la PMA a à ce point attiré l'attention, c'est parce qu'effectivement, il s'agit là de quelque chose contre lequel un certain nombre de nos concitoyens soit sont opposés, soit ne sont pas tout à fait à l'aise. Donc on a un changement assez majeur dans la cellule familiale, la sexualité, la filiation, et ça pose ce genre de problème. Ce que je trouve intéressant sur ce sujet, peut-être c'est deux choses, parce que vous parlez du problème des lois de bioéthique, c'est quand même des lois un peu spéciales, spécifiques, avec d'ailleurs un processus de fabrication spécifique, puisque vous avez le Conseil consultatif national d'éthique qui intervient, vous avez des débats avant ces lois.
Et qui
dure longtemps. Donc bon, alors on dit que ça sert à rien, de toute façon le gouvernement avait déjà son idée. Je pense pas, je trouve que c'est quand même intéressant au niveau de la pédagogie, de la citoyenneté. Et puis il me semble, quand on lit le dernier avis du Conseil d'État, le Conseil d'État donne toujours des avis très très intéressants sur les lois de bioéthique, et son dernier avis sur cette loi qui est en train d'être discutée au Parlement, il parle d'un modèle bioéthique français. Et c'est assez intéressant parce qu'il dit, voilà, il y a trois mots qui distinguent ce modèle bioéthique. C'est les mots de solidarité, de liberté. Alors on attendait égalité, le troisième mot, et non, il dit dignité. Et c'est peut-être là où il y a effectivement débat, différence, et c'est là-dessus que effectivement tout le monde n'a pas la même conception de la dignité.
Et puis on peut dire aussi, Isabelle de Golemin, que on sait combien ces questions de bioéthique peuvent diviser au sein de la société, que tout ce travail législatif préliminaire, ce travail de discussion, c'est aussi comment fabriquer une décision qui peut être la plus consensuel possible autour de discussions qui sont auparavant des moments de friction à l'intérieur de la société.
Oui, alors ce qui est sans doute nouveau depuis 50 ans, c'est que le consensus, je ne sais pas s'il est possible aujourd'hui sur ces sujets-là. Je pense qu'autrefois, la France était divisée, voilà, traditionnellement, il y avait d'un côté les laïcs, de l'autre côté les catholiques ou les chrétiens, et on avait quand même la même base anthropologique sur laquelle tout le monde était d'accord. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est vrai, parce qu'il y a des idéologies qui sont différentes, alors certains disent libertaires, je ne sais pas si le mot est bon, mais en tout cas, des choses sur lesquelles on n'est pas tous d'accord. Donc, je ne suis pas sûre que le consensus soit possible, en tout cas, la discussion est au moins moins, en tout cas à la Croix, c'est ce qu'on dit beaucoup, au moins qu'on reconnaisse nos désaccords, au moins un accord sur le dissensus, c'est déjà pas mal. Et il me semble qu'en tout cas dans nos sociétés, c'est intéressant. Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on voit une nouvelle opposition à ces lois, et qui est beaucoup apparue au Sénat, qui est une opposition de gauche, qui n'est pas d'ailleurs sur le même socle que l'opposition plus catholique, on va dire traditionnelle, par rapport aux manipulations génétiques, qui est une opposition un peu écologique, et qui dit notamment, vous avez parlé de ce que effectivement la loi permet, enfin pourrait permettre, que l'on manipule le patrimoine génétique d'un embryon avec cette fameuse technique à laquelle moi je suis bien incapable de comprendre, la fameuse technique CRISP, donc le ciseau génétique, et donc on pourrait fabriquer quand même des choses assez qui font peur, et là c'est vrai qu'il y a une forme de voilà, peut-être de précaution à prendre, mais ces deux oppositions sont pas sur le même plan, hein. Il y en a une, c'est sur l'aspect anthropologique, l'autre c'est peut-être une conception de la nature qui est différente.
En effet, pas plus tard qu'hier, le Sénat a rejeté tout un article, l'article 17, qui propose de lever l'interdiction de modifier le génome de l'embryon humain et d'autoriser ces modifications uniquement si elles sont réalisées à des fins de recherche scientifique. Et à ce sujet, dans les débats, certains ont parlé d'humains génétiquement modifiés. Comme vous le disiez, ces mots ont été employés par la droite qui est majoritaire au Sénat, mais également par les communistes. Et en dehors du Sénat, voilà, il y a eu des tribunes, des contre-tribunes, y compris effectivement signées par José Bové, Michel Rivasi. Voilà, donc on voit bien effectivement que ça n'est pas un clivage habituel, on va dire. Quel regard vous portez-vous, Alain Fischer, là-dessus, sur ces mots de humains génétiquement modifiés? Est-ce que cela vous semble correspondre à quelque chose?
Je partage complètement ce point de discussion. Il y a clairement un courant, je ne sais pas comment il faut l'appeler, naturaliste, qui a une vision sacrée de la nature et qui considère qu'on ne peut pas toucher à la nature, qui est par définition bonne et qui fait que...
Ben non, mais, un peu caricatural.
Oui, exprès. Mais parce que parfois, je pense qu'on est là-dedans. Donc, je suis délibérément un peu caricatural. Et la nature est presque intouchable. La nature, elle peut être extrêmement sauvage. Et par exemple, si on prend ce qui concerne l'homme, les maladies génétiques, c'est totalement une affaire naturelle et c'est juste épouvantable. Donc, de temps en temps, il est sain de combattre la nature. Je suis exprès un tout petit peu provocateur parce qu'il y a des situations, et c'est un peu mon métier, je vous assure, on n'a vraiment pas envie de respecter la nature lorsqu'on voit des enfants souffrir de telle ou telle maladie génétique. Alors, votre question, elle est pertinente, mais il faut bien distinguer deux situations. C'est une éventuelle modification du patrimoine génétique qui se transmettrait à notre descendance, et je ne suis pas plus favorable que vous, qui me paraît une aberration. Je suis pas un grand fan du principe de précaution, mais pour une fois, je le prendrai avec moi, parce que on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on peut faire, et si on entraîne une modification non souhaitée, elle sera transmise. Donc ce n'est pas juste une personne, ce sont les descendants de cette personne qui n'ont rien demandé, évidemment, qui seraient concernés, donc cela n'est pas acceptable. D'autre part, à vrai dire, pour des considérations scientifiques, ce serait un peu trop long à exposer ici, sauf si on pense homme augmenté, qui est encore une autre affaire folle dont on peut parler si vous le souhaitez après, mais en termes d'application médicale, c'est-à-dire éviter une maladie génétique, il y a des façons beaucoup plus simples de procéder, et sans recourir à ces modifications par la technique CRISPR-Cas9 d'un embryon. Alors, il faut bien distinguer cela, qui reste aujourd'hui absolument interdit et il est hors de question de toucher à cela. J'espère qu'on n'y touchera jamais. C'est un mot qui n'a pas beaucoup de sens, mais en tous les cas, pour très longtemps. Deux autres considérations, c'est que les mêmes techniques peuvent être éventuellement utilisées pour traiter un malade. Et cette fois-ci, si c'est pertinent sur le plan scientifique, il n'y a aucune raison de ne pas le pratiquer. Et enfin, le dernier point que vous avez évoqué, c'est-à-dire la possibilité ou non, et malheureusement il semble qu'on aille vers le non, de mon point de vue, de pratiquer une recherche au laboratoire sur les états précoces de l'embryogenèse humaine en faisant des modifications génétiques, parce que ça nous aide à comprendre comment un embryon se développe dans les premiers jours de vie. Par exemple, ce type de recherche est autorisé en Grande-Bretagne. Il y a des équipes qui font des travaux absolument remarquables, qui aident à comprendre, et peut-être d'ailleurs auront des applications dans le domaine de la reproduction. Donc il faut bien distinguer ces différents points. C'est ce tout dernier point qui était en discussion, et c'est dommage, de mon point de vue, qu'il ne soit pas repris.
Isabelle de Gaulmin.
Oui, je crois que les gens qui s'y opposent expliquent que c'est chosifier l'homme, puisque vous considérez l'embryon comme une chose que l'on manipule. Mais de fait, j'imagine qu'il y a d'un côté en balance les avancées médicales, et de l'autre, voilà, une conception de l'homme et de cet embryon qui peut ensuite être un homme. Donc c'est sans doute ça la difficulté. Il me semble ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est le côté Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un monde, est-ce qu'on peut avoir un modèle bioéthique français? C'est le problème. On le voit bien que pour la PMA, finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire ce qu'on appelle une PMA éthique avec nos critères, et notamment le critère de dignité dont je parlais, qui fait qu'on veut éviter que l'on fasse du commerce sur les gamètes et que la PMA devienne une affaire juteuse pour un certain nombre de firmes. Donc on va essayer de mettre en place en France un système éthique au sens où, voilà, sous le contrôle des médecins, et de fait, de ce point de vue-là, la loi peut se justifier. Et bien c'est vrai qu'on ne peut pas vivre en dehors des autres. Et c'est sûr que quand on permet des choses dans un pays, est-ce que la France peut continuer à être comme ça, avec Internet, avec la mondialisation? Donc je trouve que sur les problèmes de législation bioéthique, l'aspect mondialisation est très important.
Et puis, vous venez de prononcer ce mot d'éthique, Isabelle Le Golmin. On a l'impression, et c'est ce que dit Frédéric Worms dans un numéro du 1 qui vient tout juste de sortir, qu'on a un affrontement entre des doctrines morales et des éthiques qui sont complètes, d'une certaine façon, qui se sont construites de tout temps ou depuis très longtemps, avec une éthique qui doit évoluer parce que la science et les disciplines médicales évoluent de façon très rapide. Et donc, il y a quelquefois des frottements qui sont dus à ces massifs, pourrait-on dire, d'éthique qui sont là depuis l'écriture des livres sacrés. Et puis, de l'autre côté, effectivement, une médecine qui évolue très vite et qui nécessite de faire changer l'éthique et de la faire bouger, en l'occurrence.
Oui, puis il y a aussi, je ne sais pas si c'est qu'une affaire d'éthique, c'est aussi une affaire de ce qu'on appelle de liberté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment qu'ils ont le droit de faire tant que ça n'embête pas l'autre. Donc effectivement, de ce point de vue-là, une PMA ne va pas embêter les gens. La femme qui fait une PMA, elle peut tout à fait le faire. Le problème, c'est qu'il y a justement des traditions religieuses, etc., qui disent que ça concerne aussi notre conception de la société. Donc c'est pas juste l'éthique en matière de bioéthique, c'est pas juste mettre un curseur, on embête un peu moins l'enfant, on embête un peu plus les parents ou le contraire. C'est plutôt essayer d'avoir une vision commune de la société. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, on est dans une rupture anthropologique majeure entre des visions plus traditionnelles chrétiennes et des visions aujourd'hui qui sont peut-être plus libertaires.
Alain Fischer.
Oui, enfin, c'est la discussion de savoir comment on définit la personne humaine. Quand commence la personne humaine? Est-ce que c'est le zygote, l'embryon d'une cellule? Est-ce que c'est comme vous le savez bien, pour d'autres religions, au moment où un système nerveux apparaît? Ou bien encore d'autres considérations qui placent cette naissance comme un événement progressif et donc qui permet éventuellement des interventions, mais qui peuvent être au bénéfice de femmes qui ont besoin et ont un désir d'enfant qui est légitime. Donc c'est vraiment une question initialement philosophique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une rupture anthropologique, parce que pour moi, cette distinction de vision des choses a toujours existé. Enfin, elle existe au moins depuis le monde des Lumières, à mon avis, avec l'évolution des progrès scientifiques. Mais en termes de conception, je pense que ce débat, il existe au moins depuis 250 ans et peut-être depuis plus longtemps.
Chloé Cambrelin.
Alors, pour ce qui est de ce projet de loi, il va donc retourner à l'Assemblée. On voit que déjà, ce qu'il y a dedans, les sujets qu'il comporte, suscitent des débats qui peuvent être vifs. Devant nous, quand on dit quelle loi pour le vivant, devant nous, on a des sujets peut-être encore bien plus vertigineux, avec le transhumanisme, par exemple. Quand on voit aujourd'hui que ce sont les GAFAM qui mettent beaucoup de moyens dans cette recherche-là, Alain Fischer, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce type de recherche a un avenir, un intérêt? Est-ce que cela relève du pur fantasme? Ou est-ce que c'est plus que cela?
Alors, je pense quand même que le bruit médiatique est très largement supérieur à ce qui se passe un peu. De mon point de vue, je pense que ce concept de transhumanisme est hautement critiquable, pour dire les choses de façon légère. Premièrement, parce qu'il est scientifiquement extrêmement naïf, c'est-à-dire penser qu'en modifiant à un niveau limité un gène ou tel ou tel élément du génome, un embryon, on est capable de modifier de façon très significative tel ou tel type de comportement, rendre les gens capables de courir le 100 mètres en 5 secondes, n'importe quoi, ou d'être beaucoup plus intelligents, ou d'être des guerriers formidables, ou de résister à telle ou telle maladie. C'est assez naïf quand on connaît la complexité du programme de développement d'un être humain. Donc la première critique, c'est la naïveté, et la seconde, qui est plus sérieuse encore, c'est la morale. Qu'est-ce qu'il y a conceptuellement derrière cette notion dogme amélioré? C'est un système de sélection. On a reproché, à juste titre, à un certain nombre d'actions génétiques d'être eugénique. Donc l'eugénisme, et là c'est l'eugénisme à l'envers. On va sélectionner les surhommes. Enfin, je pense que conceptuellement et moralement, c'est juste inacceptable.
Et ça va rajouter aussi aux inégalités qu'en tant que professeur au Collège de France, vous tentez de combattre, parce qu'effectivement, vous dites, les médicaments innovants sont de plus en plus chers, on n'arrive plus à se les payer, on ne pourra pas les payer pour tout le monde, en tous les cas, et tout ça, ça fait partie des grands débats que vous menez vous-même à Alain Fischer, et dont vous pensez qu'ils sont essentiels, et que ça tient aussi à une éthique vis-à-vis du soin aux humains.
Alors évidemment, sur un plan assez différent, mais la question de l'accessibilité des soins est une question immense, indépendamment de l'innovation médicale actuelle et qui avance. On sait qu'il y a une inégalité des soins si on pense à la situation des personnes précaires, même si la France a passé des lois dans le passé qui sont extrêmement bénéfiques. On peut penser au système qui permet à un migrant rapidement d'être soigné gratuitement, et c'est la dignité de ce pays de le faire, et en même temps c'est une bonne raison de le faire pour éviter par exemple des maladies infectieuses. Donc on fait plutôt un peu mieux que les autres, pardon de faire à nouveau une comparaison, mais je pense qu'elle est pour une fois positive, mais en même temps ça ne suffit pas. Et puis vient se greffer une seconde difficulté aujourd'hui, c'est que les nouveaux médicaments, il y a beaucoup de nouveaux médicaments de très grand intérêt médical pour une série de pathologies, sont vendus à des prix exorbitants qui ne sont pas justifiés dans un modèle disons d'équilibre entre la nécessaire capacité de l'industrie d'innover et respecter l'intérêt public général.
Égalité, inégalité, effectivement, l'homme augmenté ou encore les prix des médicaments trop chers. Isabelle de Golemin, pour conclure.
Ben oui, si les GAFA mettaient tout l'argent qu'ils mettent dans le transhumanisme, dans la lutte contre le palu ou des choses qui sont aujourd'hui quand même de ce dont les hommes souffrent en premier, je pense qu'on se porterait mieux, c'est évident.
Merci à tous les deux. Merci à vous, Isabelle de Golemin. Je rappelle que vous êtes donc rédactrice en chef à La Croix et que vous êtes auteur tout récent, donc aux éditions Bayard, des Cathos n'ont pas dit leur dernier mot. Compris en vous écoutant. Et puis pour votre part, évidemment, on peut suivre vos cours ici, Alain Fischer, au Collège de France. Je rappelle que vous êtes le titulaire de la chaire médecine expérimentale. Merci beaucoup.
France Culture, la nuit des idées, en public au Collège de France à Paris, Chloé Cambrelin, Emmanuel Laurentin.
La prévision est-elle une illusion? Voici donc le thème de notre nouvelle discussion, la prévision économique. Puisque l'on se pose cette question avec comme point d'entrée la réforme des retraites. Philippe Aglion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur ici au Collège de France, titulaire de la chaire économie des institutions de l'innovation et de la croissance. Vous avez conseillé Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, notamment sur cette réforme. À vos côtés, Laurence Boone, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes chef économiste de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Vous aviez auparavant travaillé pour différentes grandes banques, Barclays, Bank of America, Merrill Lynch, et vous avez été conseillère de François Hollande à l'Élysée. Alors, pour débuter cette discussion, je vous propose un exemple très concret. La conférence de financement des retraites a été mise en place cet après-midi. On lit, on entend partout qu'il faut trouver 12 milliards d'euros pour ramener le système à l'équilibre en 2027. Chiffre contesté, critiqué, y compris par vous, Philippe Aglion. Sur quoi repose ce chiffre? D'où vient cette prévision?
Je crois que ces chiffres, donc c'est des prévisions du COR, du Conseil d'orientation des retraites, qui ont fait différents scénarios. Il y a un scénario optimiste qui dit 7 milliards, un scénario plus pessimiste qui dit 17. Alors après, on arrive à 12, plus ou moins. Je simplifie à l'extrême en faisant un peu la moyenne entre les deux. C'est un petit peu arbitraire parce qu'on ne dit pas quel est le scénario le plus plausible, le moins plausible. Et donc, c'est toujours délicat de dire, voilà, je vais faire une conférence de financement basée sur un chiffre. Et puis voilà, et c'est mon chiffre totem. Et voilà, donc je crois qu'une chose, c'était de dire, ben, il faut se préoccuper de l'équilibre du système actuel, parce qu'il est question du système. Il y a deux débats, en fait. Il y a le système actuel, qui s'applique aux gens qui partent avant 2035, et puis il y a le système cible. Le système cible, à points, n'a pas besoin d'âge pivot. On compte les points, il s'équilibre de lui-même par les points. Donc il faut suffisamment de points pour équilibrer le système. Et le point est déterminé, évidemment, pour tenir compte de l'évolution de la démographie, après, le point peut changer au cours du temps, mais les partenaires sociaux, il y a une gouvernance du point. Donc il s'agissait d'équilibrer le système actuel. Donc la question d'abord est de savoir, est-ce que je veux arriver absolument à l'équilibre? Parce qu'en partie, le déficit s'est creusé parce que l'État dépense moins. Il y a moins de fonctionnaires, mais en même temps, l'État équilibre ses comptes. Donc Qu'est-ce qu'il faut équilibrer dans ce cas? C'est vraiment à cause du secteur public que le déficit s'est creusé. C'est pas à cause du secteur privé. Donc c'est très endogène à ce que l'État décide. Donc c'est pour ça que ce débat est engagé sur des bases un peu fallacieuses, voilà. Donc ce que j'espère, c'est que la bonne foi va prévaloir, que l'information va être donnée, et que on va donner beaucoup de place aux partenaires sociaux, qu'on va pas ignorer et passer par-dessus les partenaires sociaux. Enfin, je crois beaucoup que voilà, on viendra sur ce débat.
Et pourtant, il faut avoir des prévisions en économie quand on réfléchit à des réformes qui vont porter leurs fruits 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans plus tard. Il faut se fonder sur des hypothèses. Comment fait-on, vous qui donc êtes à l'OCDE, qui passe beaucoup de temps justement à imaginer des chiffres et des prévisions et des perspectives, comment fait-on pour fonder une décision d'aujourd'hui en vue d'un but 20 ans, 30 ans ou 40 ans plus tard, Laurence Boone?
Alors, en fait, on fait plusieurs choses et Philippe y a fait allusion un petit peu avant, puisque on peut faire des scénarios, puisqu'effectivement, on n'a jamais de certitude sur ce qui va se passer dans l'avenir, et on ne peut pas prévoir avec certitude ce qui va se passer dans l'avenir, en grande partie aussi parce que le comportement des personnes évolue avec les incitations qu'on leur donne. Je vais vous donner un exemple. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, l'âge effectif de la retraite est à 64 ans, et en fait, l'âge où les gens touchent leur retraite à taux plein et partent à la retraite est 4 ans plus élevé qu'en France. Mais quand on regarde l'emploi des personnes entre 55 et 64 ans, en France, il est de moins de 50%. Dans le reste des pays de l'OCDE, il est plutôt proche de 67%. Donc on voit que quand on a une incitation à travailler plus longtemps, effectivement, il y a plus de personnes qui travaillent plus vieilles. Et ça, c'est des comportements qui changent parce qu'on vous donne une incitation. Donc quand on fait des prévisions, on fait des hypothèses sur ce qui va se passer, sur la trajectoire où on veut aller. Et c'est le cas des études de corps, par exemple. Philippe parlait de scénarios. Elles font 3 hypothèses sur le taux de croissance. Est-ce qu'il sera plus proche de 1, plus proche de 1,3, ce qu'on observe aujourd'hui, ou plus proche des 1,8, qui est ce qu'on voyait avant la crise financière? Où va le taux de chômage? Est-ce qu'il est plutôt, on le voit plutôt dans les 10, 20 ou 30 ans à 7%, ce qui est le cas du corps, ou bien est-ce que c'est plutôt ce qu'on a observé en moyenne sur les 20 dernières années, qui est plutôt 10%, ou est-ce qu'on peut espérer qu'il soit encore meilleur que 7%?
Donc on voit bien beaucoup d'inconnus tout de même dans ces cas-là, parce qu'on fait beaucoup de prévisions avec beaucoup d'inconnus.
Absolument. Donc on dessine des chemins. Et en fonction des chemins, on propose des politiques économiques. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait le COR dont parlait Philippe. Et les chemins qui sont dessinés par le COR, en fait, c'est fait avec les partenaires sociaux. Après, ils peuvent ne pas être d'accord sur l'objectif d'équilibre financier, comme le soulignait Philippe, mais les différents chemins, les différentes manières d'y arriver sont étudiés par l'ensemble des partenaires sociaux, de l'État et des représentants qui travaillent au COR.
Vous disiez, Philippe Aguillon, ces 12 milliards, c'est arbitraire, parce que voilà, c'est en gros entre les deux scénarios extrêmes du COR, du Conseil d'orientation des retraites. Et en même temps, quand justement ce rapport du COR est sorti en disant ça pourrait être de 7 à 17 milliards, il y a aussi un côté un petit peu absurde quand on n'est pas habitué, je veux dire quand on n'est pas de ce milieu, à se dire c'est quoi ces prévisions entre 7 et 17 milliards, ça n'a quand même rien à voir. Et là, on peut se poser la question de la prévision a-t-elle un sens quand on a un tel écart entre différents scénarios?
Voilà,
à quoi ça sert?
Je crois que ce qui est important, si vous voulez, c'est de pouvoir dire, voilà, de voir des structures qui disent, voilà, je peux commencer à m'attaquer au déficit. D'abord, essayer de se mettre d'accord sur les hypothèses. Je crois qu'il serait important que le COR soit auditionné j'espère qu'elle le sera par cette commission de financement pour voir la plausibilité des différents scénarios. Et puis ensuite, on peut dire, ben, on peut faire un effort. C'est-à-dire, on peut dire, voilà, on peut déjà cibler 7, par exemple, déjà. Et dire, voilà, est-ce que chacun est prêt, est-ce que, par exemple, les syndicats, les employés sont prêts à faire un effort pour augmenter la durée de cotisation? Est-ce que le MEDEF, les employeurs sont prêts aussi à faire un effort? Et puis, déjà, si on peut arriver à 7, par exemple, et que l'État est prêt à dire, eh ben, faisons une clause de revoyure dans 2 ans, si on voit que le déficit effectivement dépasse 7, eh bien, on se remet et on renégocie. Vous voyez, ça, c'est une manière de discuter. C'est-à-dire de dire, voilà, chacun a montré sa bonne volonté, on a fait un effort, et il y aura revoyure dans 2 ans. Une autre manière, c'est la manière bonapartiste, qui est de dire, je fais semblant d'avoir un dialogue social, mais en fait, je décide d'en haut.
Et voilà. Et ça, c'est et c'est ce que j'espère qu'il ne se passera pas. Voilà. Parce que je pense que si vous voulez, c'est même dommageable pour la France. Je pense que c'est très important. Les pays qui réforment à long terme et qui réussissent, les pays scandinaves notamment, et ou l'Allemagne, c'est des pays où le dialogue social est au cœur de ce qui se passe. Parce que justement, on ne peut pas prévoir parfaitement. Donc il faut qu'il y ait des structures de renégociation permanente. Et c'est les partenaires sociaux qui sont au cœur de cette renégociation.
Laurence Boone.
Oui, alors, il y a quelque chose auquel Philippe a fait allusion qui, à mon sens, est très important, c'est l'évaluation ex post. Pour que, d'abord, il faut se dire qu'une réforme des retraites, on la fait jamais une fois pour toutes. C'est pas vrai. Oui, parce que les paramètres changent. Par exemple, prenez les États-Unis. Dans la plupart des pays de l'OCDE, l'espérance de vie en bonne santé est en train de toujours grandir. C'est pas vrai dans certains États des États-Unis. Donc, s'il y a quelque chose qui fait que l'espérance de vie remarque dans le régresse. Sens inverse, oui, on n'a peut-être pas envie de travailler aussi longtemps. Donc il est nécessaire d'avoir des clauses de revoyure régulières où on regarde quels ont été les impacts et comment est-ce qu'il faut modifier les choses. De la même façon que ce qu'on voit dans les autres pays de l'OCDE et notamment dans les pays scandinaves, c'est des périodes de mise en œuvre très très longues. Parce que vous ne pouvez pas évidemment demander aujourd'hui à des gens qui sont à 3 ans de la retraite tout d'un coup d'aller travailler 4 ans de plus. Ça ne fait quand même pas partie du scénario. Et puis je crois qu'il faut aussi... Il y a deux autres choses. Il faut effectivement beaucoup d'études d'impact, puisque quand on a 42 régimes de retraite comme on a en France, il faut bien évidemment, chaque personne est différente. Si vous commencez par travailler dans le privé, puis vous allez dans le public, vous n'aurez pas la même retraite que si vous avez commencé dans le public et que vous allez dans le privé. Donc c'est d'une extrême complexité. Et pour ça, il faut beaucoup d'informations et de clarté. Et dans les pays scandinaves dont on parlait, quand on a mis en place des réformes avec des systèmes de points, il y a beaucoup de clarté sur les critères d'évolution du point. Donc ça ne veut pas dire, parce que vous le soulignez avec les 7-17 milliards, c'est difficile de prévoir ce que va faire le PIB, ce que va faire l'inflation, comment les salaires vont évoluer sur 20 ans. En revanche, on peut être très clair sur comment on va faire évoluer le point avec l'évolution démographique, avec l'espérance de vie en bonne santé, avec l'évolution des salaires ou avec l'évolution des prix, de façon à ce que tout le monde ait de la clarté sur ces critères et puisse voir s'ils sont justes d'après lui ou pas justes d'après lui aussi.
Oui, parce qu'une des grandes difficultés, c'est qu'on a compris que la prévision servait à rationaliser les incertitudes et que c'est très important en matière d'économie. On ne peut pas s'en passer de cette rationalisation-là. Mais évidemment, en laissant du flou, en laissant du doute, on laisse la place aussi au trucage possible ou à l'impression de trucage possible, on laisse la place à, disons, l'idée d'une théorie du complot, etc. Philippe Aguillon, on se dit, voilà, il y a un loup et je ne veux pas rentrer dans cette négociation parce que je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas, justement, quelque chose qui soit caché sous le tapis.
Oui, c'est important d'avoir des scénarios et d'être prêt pour différentes éventualités. Donc ça, je crois que c'est bien de... En même temps, il faut se donner la flexibilité nécessaire. On est dans un environnement de contrat incomplet, comme on dit, et il faut avoir des règles claires de renégociation et de gouvernance pour gouverner sur la base d'informations nouvelles qui nous parviennent, voilà, et de pouvoir s'adapter. Donc je crois, Laurence disait très, très justement, par exemple, le système cible, le système à points, il faut que les critères soient très clairs, garantir la valeur du point. Il y a la gouvernance, donc les partenaires sociaux ont un rôle très important à jouer dans la gouvernance du système à points, évidemment, il faut la déterminer. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une grosse récession? Est-ce qu'on a une politique qu'on appelle contracyclique, c'est-à-dire qu'on maintient quand même la valeur du point quand il y a une grosse récession, ça veut dire que quelqu'un met la main à la poche, ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, on s'autorise, comme dans le projet actuel, à faire varier toutes les variables? Tel que c'est fait maintenant, c'est à 5 ans, on dit, s'il y a une grosse récession, on s'autorise même à réduire la valeur du point, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des politiques procycliques, c'est-à-dire où on diminuerait la valeur du point en récession, ce qui ferait baisser la consommation des ménages. Donc là, il y a des garanties à avoir, vous voyez. Et ça, toutes ces zones sont des zones d'ombre. Et il y a la transition, par exemple, les fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui ont des grosses primes et des fonctionnaires qui ont des petites primes, les enseignants. Les primes ne cotisaient pas. Mais alors, est-ce qu'on passe d'un coup ou est-ce qu'on dit petit à petit, on augmente la cotisation sur les primes et on les réduit sur les traitements de façon à faire converger? C'est intéressant que les gens qui ont fait la réforme, c'est des gens qui ont des grosses primes. Et les gens qui la subissent sont des gens qui ont des petites primes. Non, mais c'est intéressant. Donc il faut penser la transition. Et ça, c'est tout un débat qui est totalement en dehors du débat sur le financement. Ce débat-là, il n'aura lieu qu'au Parlement. Et puis, il y a le débat sur le financement.
Mais justement, pour poursuivre, je crois, la direction dans laquelle allait Emmanuel, il y a aussi une utilisation politique de la prévision. c'est un peu quand même ce qui se passe là sur les retraites, c'est-à-dire qu'au départ, il y a la réflexion, la réforme sur le changement de système, le système universel à point, celui sur lequel vous aviez travaillé, et à cela s'est ajouté le débat sur le financement, qui au départ ne faisait pas partie de la discussion, débat sur le financement qui est lui-même justifié par des prévisions économiques, en disant avec cette menace de déficit. Donc voilà, Laurence Boone, est-ce que, pour dire les choses clairement, cet argument, cette utilisation des prévisions, est-ce qu'au bout d'un moment, ça s'appelle aussi tout simplement faire de la politique ?
On peut toujours utiliser des prévisions pour faire de la politique, mais à l'origine, elles sont quand même pas prévues pour ça. La prévision, c'est un guide à la décision, c'est un outil d'aide à la décision. Vous parliez du 7, 12 ou 17 milliards. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'outils qui vous permettent de dire si c'est 7, 12 ou 17 milliards. On n'a pas non plus débattu de l'équité intergénérationnelle. Parce que tous les déficits qu'on laisse s'accumuler, c'est aussi ceux que les générations d'après vont payer. Quand on regarde l'évolution du système de retraite, notamment en France par rapport aux autres pays, on voit bien que la charge des jeunes augmente alors que le taux de remplacement de ceux qui vont arriver à la retraite diminue. Donc, à mon avis, c'est un débat qu'il faut avoir. Est-ce qu'il fallait l'avoir en même temps que le système à points ? Ça, c'est une autre question. Mais en revanche, est-ce qu'on veut un déficit ? Est-ce qu'on veut que ce soit financé par l'État ? Par quelle génération on veut le faire porter ? Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et quels sont les choix budgétaires qu'on fait aussi ? Est-ce qu'on veut prioriser, par exemple, d'aller financer effectivement ce déficit par de l'argent public ? Ou bien est-ce qu'on se dit, oui, mais en fait, moi, je veux mettre 10 milliards de plus sur l'éducation, donc je vais effectivement essayer de clore un déficit ? Mais je pense qu'il est quand même super, super important de se dire que la redistribution que vous choisissez, elle est politique. Et elle doit rester politique parce qu'elle fait l'objet d'un vote démocratique. En revanche, la prévision, elle doit rester neutre en expliquant clairement les hypothèses, comment sont faits les calculs et à quel résultat on arrive. Parce que c'est aux politiques de choisir le type de déficit qu'il veut et qui paye ce déficit.
Philippe Aguillon. Je vais répondre à cette question. Je crois qu'il y a eu en fait un peu deux ADN, si vous voulez, dans cette affaire. Je crois que dans le programme, il y avait eu un choix très clair. On avait eu un débat au sein de l'équipe de savoir si on allait faire
l'équipe,
du candidat Macron. Est-ce qu'on allait faire du paramétrique en même temps que le systémique ? Et pendant la campagne, le candidat avait tranché. Pas de paramétrique, ça sera du systémique pur, d'accord ? C'était déjà très important de faire passer, expliquer qu'on va passer à un système à points, ça soulève toute une série de questions, notamment, je vous ai parlé du problème des fonctionnaires à petites primes, les carrières ascendantes, le fait qu'on compte sur l'ensemble de la carrière et pas sur les meilleures années. Déjà, ça soulève énormément de questions, les transitions, rien que les questions que j'ai soulevées tout à l'heure, faisaient largement l'objet d'un grand débat s'il fallait le faire passer. Quelque part arrive ensuite un Premier ministre qui, lui, est issu d'un autre programme que je connais également, que j'avais un peu travaillé pendant les primaires. Et lui, c'était l'âge minimum à 64 ans. C'était le programme Juppé. Et là, c'était âge minimum à 64 ans. Et on a un peu l'impression que les fonctions objectives sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quelque part, à Matignon, c'est je minimise la distance au programme Juppé sous contrainte de quand même je dois accommoder le système. Je ne sais pas si... Mais il y a un mélange de deux ADN. Déjà, faire passer la système à point, c'était compliqué, mais mélanger ces deux ADN, les gens sont totalement perdus. Je pense que ça a été une mauvaise chose de mélanger ces deux choses. Et le rapport du corps a été commandé, évidemment, à une fin intacte stratégique, c'était qu'il sorte de façon à ce qu'on puisse justifier l'âge pivot et tout le débat paramétrique.
Laurence Boone.
Le débat politique, je vais le laisser à Philippe, c'est plus sa tasse de thé, mais d'un point de vue économique, en fait, je pense qu'il faut aussi qu'on soit très clair et très transparent. La raison du système à points où chacun cotise et ça conditionne le montant de retraite que vous aurez ensuite, il est aussi clairement fait dans le but d'allonger la période au travail et d'une certaine façon de réduire la période passée à la retraite. La vérité, c'est que c'est aussi un système où si on veut un certain niveau de retraite, on sait qu'on devra travailler plus. Et quand on regarde la France par rapport aux pays de l'OCDE, à nouveau, on travaille. On est le pays où les gens passent le plus de temps à la retraite. Alors, bien sûr, on peut pas comparer les gens qui ont une carrière longue et courte, mais je crois qu'il y a aussi une certaine hypocrisie, si Philippe me pardonne le terme, parce que passer un système d'un point, c'est pour inciter les gens à partir plus tard.
Oui, et si on voulait changer cette question, est-ce qu'il faudrait prendre, à propos de la question qu'on posait sur la prévision, la phrase de Kenneth Galbraith, qui est très connue des économistes, la seule utilité de la prévision en économie, c'est de rendre l'astrologie respectable.
Ou est-ce que la météorologie.
Et la météorologie respectable. Ou est-ce qu'il faut prendre l'autre phrase de l'économiste britannique que je ne connaissais pas, mais qui s'appelle Mark Cliff, qui dit « Mieux vaut être vaguement exact que se tromper avec précision ». Laquelle vous préférez-vous, Philippe Aguillon?
Ouais, j'aime bien la dernière. Je pense que c'est bien d'avoir des scénarios et d'évaluer sur la base de scénarios. Et après, de se préparer à des éventualités. Je crois que ça, c'est sérieux. Voilà. Je crois que là, on peut faire, c'est utile d'avoir ça. Maintenant, l'économie est surtout bonne à analyser des faits passés, les comprendre mieux, pour faire face la prochaine fois. C'est-à-dire, par exemple, je pense qu'on a, beaucoup de gens ont essayé de comprendre la crise de 29. Et que je pense que la crise de 2008 a été mieux gérée que la crise de 29 parce que, on a compris des choses, notamment sur comment réglementer le système bancaire, etc., à partir de l'analyse qui a été faite de la crise de 29. On est un peu comme des médecins, on essaye de comprendre ce qui s'est passé pour arriver à des remèdes. Mais le médecin ne va pas nécessairement prévoir si vous serez malade demain ou pas. Mais il apprend des expériences passées pour mieux vous soigner dans le futur. Mais c'est utile, évidemment, d'avoir des scénarios et de se préparer. Mais je crois qu'il faut effectivement, il faut faire un usage, disons, modeste, avoir l'humilité quand on utilise l'outil de la prévision. Maintenant, la prévision à court terme, par exemple, sur la croissance, c'est intéressant. La croissance, il y a la croissance à moyen terme. La moyen terme, c'est le potentiel de croissance. Là, on connaît un peu les déterminants du potentiel de croissance et donc de la croissance à moyen terme. À long terme, on peut affecter la croissance potentielle. C'est quelque chose qui est endogène. On peut soi-même l'affecter. On peut changer l'organisation de l'économie. Et à court terme, c'est la politique budgétaire qui affecte à court terme. Vous voyez, donc, c'est la difficulté aussi dans les prévisions, c'est que les prévisions dépendent en partie de ce que l'on décide de faire.
Laurence Boone, vous préférez Galbraith ou Mark Cliff?
Je préfère Mark Cliff parce que je pense, beaucoup de fois des économistes sont d'accord, vous allez être content, mais je pense comme Philippe que, à nouveau, on doit faire des scénarios pour se préparer. Et il a raison de dire qu'on étudie le passé. À l'OCDE, on étudie aussi ce que font les différents pays, et quand on en a près de 50, ça permet aussi...
C'est comparaison dans le temps et comparaison dans l'espace.
Oui, parce que vous pouvez aller voir comment ça a marché en Suède, comment ça a marché en Norvège, pourquoi ça n'a pas marché en Italie, ça enseigne énormément de choses. Après, même à moyen terme, on n'est pas plus précis. Philippe parle de la croissance potentielle. La croissance potentielle, elle dépend aussi de la démographie. La démographie, c'est pas nous qui faisons des prévisions d'évolution de population. On va se reposer sur les Nations Unies, comme beaucoup de personnes. Et ces prévisions aussi, elles sont revues. Parce que, pour des raisons X ou Y, vous avez plus d'enfants, moins d'enfants au cours du temps. Je crois qu'il y a une chose essentielle dont on n'a pas encore parlé, enfin, on l'a juste évoqué au début. C'est l'économie, ça doit faire des prévisions pour faire des scénarios, pour permettre de choisir. Ça doit aussi faire des évaluations. Et en France, on n'en fait pas assez. Et je pense que quand Philippe parle de gouvernance,
faut pas dire ça aux universitaires qui sont dans la salle, qui trouvent qu'il y a trop d'évaluations dans leur propre métier souvent.
Ah peut-être. Disons que quand on fait de la politique économique, donc quand les gouvernants s'en saisissent, on fait en général trop peu d'évaluations, trop peu cette gouvernance dont Philippe parlait, qui est de revoir tous les 5 ans pourquoi on a fait ça, comment on change.
Je voulais revenir sur un point qu'a évoqué Laurent sur l'allongement. Je pense qu'il faut avoir le débat sur l'allongement. Effectivement, chaque année, depuis les années 70, on gagne 4 ans d'espérance de vie. Bon, pas tout le monde de la même manière. Donc il faut avoir ce débat. Et je vois les partenaires sociaux évoluer sur cette question. Mais ils veulent pas le faire par l'âge pivot. Ils disent, voilà, on peut utiliser les points ou la durée de cotisation par d'autres moyens que l'âge pivot. Eh bien, il faut laisser les mentalités évoluer. Et il faut aller avec les partenaires sociaux, les accompagner dans ces évolutions et ne pas brusquer le processus. Voilà, je crois que... Parce que c'est des normes, ça prend un certain temps. Les Suédois ont mis 10 ans pour passer au système à points. Nous, on ne peut pas faire la méthode électrochoc et faire ça en 2 mois.
Donc, merci à tous les deux. Merci à vous, Philippe Aguillon. Je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Et merci à vous, Laurence Boone, d'être venue. Vous êtes chef économiste à l'OCDE.
France Culture, la nuit des idées, en public au Collège de France à Paris. Emmanuel Laurentin, Chloé Cambrelin.
En un mois, 3 publications nous ont rappelé, c'était depuis le mois de janvier, 3 publications nous ont rappelé que nous-mêmes et la Terre qui nous porte, nous sommes mortels. La première d'entre elles, cette publication, je vous la présente parce que nous en sommes très fiers à France Culture, c'est Papier avec le magazine de France Culture, donc trimestriel, avec un titre, La fin du monde, non merci, et donc d'excellents articles justement sur cette question de la fin du monde et de la collapsologie, les collections de l'histoire, 5000 ans de catastrophes, ou encore Philosophie Magazine qui titre ce mois-ci, Collapsologie et vous, croyez-vous à la fin du monde? Collapsologie, c'est un mot qui est entré en 5 ans à peine dans notre notre vocabulaire et qui désigne l'effondrement qui viendrait ou l'effondrement qui vient, au point qu'on peut se demander si cet effondrement est attirant. C'est d'ailleurs le titre que nous avons donné à cette discussion avec nos deux invités, donc Cynthia Fleury, elle est philosophe, psychanalyste, professeure au Conservatoire national des arts et métiers et titulaire de la chaire Humanité et santé au Conservatoire national des arts et métiers, et Cécile Renoir est religieuse de l'Assomption, professeure de philosophie au Centre Sèvres et enseignante à l'École des mines à Paris, à l'ESSEC et à Sciences Po. À toutes les deux, vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question. Est-ce que cette fin du monde, cette collapsologie a quelque chose à voir, Cécile Renoir, avec la vieille histoire de l'Apocalypse telle qu'elle nous a été décrite par Saint Jean? Est-ce que nous en sommes là ou nous en sommes ailleurs aujourd'hui, Cécile Renoir?
On se rappelle parfois mal que l'Apocalypse signifie aussi le dévoilement et pas simplement l'histoire des catastrophes qui s'annonçaient à l'époque où le texte a été écrit. Et je pense que c'est important d'avoir en tête cela quand un certain nombre de personnes se rapportent à l'Apocalypse pour décrire ce qui nous attend. Du point de vue de la foi chrétienne et d'un point de vue spirituel, on peut trouver dans l'Apocalypse à la fois une description du mal, des injustices structurelles à l'œuvre. Le texte est en fait un appel très très puissant à un discernement collectif pour ne pas se résigner au mal qui vient, et en même temps peut être source d'une grande espérance en disant que l'avenir n'est pas bouché si l'homme puise dans ses ressources profondes. Et derrière le texte de l'Apocalypse, je pense qu'il y a une vision finalement très espérante de la condition humaine et de la capacité à reconnaître, pour parler comme Kant, une disposition au bien qui est plus originaire que le penchant au mal.
Cynthia Fleury, vous êtes d'accord? Ça n'est pas exactement, en tout cas, ce qu'on croit être l'Apocalypse, ce qui nous attend, et c'est peut-être quelque chose de différent et qui correspondrait peut-être à ce que vient de décrire Cécile Renoir, de ce qui était peut-être vraiment la vision de l'Apocalypse.
Alors, il y a très clairement les deux dans la notion religieuse, spirituelle de l'Apocalypse. Après, vous avez toujours eu, si vous voulez, un rôle régulateur du monstrueux, de l'effrayant, de ce que Rudolf Otto a appelé le tremendum, c'est-à-dire le frisson sacré. Que ce soit la violence, que ce soit le sacré, ça structure de toute façon l'édification d'une société. Et on va dire que, oui, moralement, on a une fonction heuristique de la menace, c'est ce qu'a vu très bien aussi Jonas.
Et Hans donc, Jonas, le philosophe.
Hans Jonas, qui voilà, et on voit d'ailleurs que les collapsologues.
Ça permet donc une effectivité. On entre dans une.
Ça permet peut-être de déclencher une performativité par la conscientisation de cette menace et de considérer que la menace vient précisément poser ce que nous avons en partage, nous qui considérons que nous n'avons plus rien en partage, et donc derrière la menace, le monde commun à protéger. Donc il y a une fonction morale, éthique, quasi métaphysicienne de cet effondrement. Après, bien évidemment, aujourd'hui, voilà, il y a d'autres fonctions. Il y a une fonction épistémologique, peut-être qu'on va y revenir, parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire, la notion d'effondrement. Et aujourd'hui, les collapsologues nous ont nettement aidés à comprendre la notion de seuil, la notion de renforcement, la notion de boucle rétroactive.
Comment
etc.
vous les qualifieriez pour ceux qui ne sont pas collapsologues?
L'effondrement, ce n'est pas cette idée d'une chute brutale. Et c'est vrai que donc il y a un contre-intuitif, voilà, ça vient tout simplement nous rappeler que la perception des événements, elle a affaire avec une invisibilité, des dynamiques qui sont compliquées, liées à la biosphère, etc. Et donc la notion d'effondrement, ce sont des seuils à partir desquels la régénération d'un système, et en l'occurrence le système Terre, qui a été posé par Vernadsky jusqu'à aujourd'hui les sciences du système Terre. Et donc un effondrement, c'est une réduction, si j'ose dire, de la complexité de quantité de choses, des systèmes Terre, de la complexité économique. C'est à partir du moment où quantité de besoins de services écosystémiques, c'est-à-dire tous les services qui sont délivrés par la nature à l'homme, ne vont plus pouvoir être délivré de la même façon, que l'accès aux ressources naturelles ne va pas pouvoir être donné, que l'accès à une énergie à bas coût et à un coût raisonnable ne va pas pouvoir être donné. C'est ça l'effondrement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, non pas disparaît, mais à un moment donné, produit du dérèglement systématique. Et en fait, par ces boucles, c'est très bien ce qui avait été vu par Meadows, par ces boucles de
rétroaction. Le rapport Meadows, c'est un rapport de 1972.
Voilà, donc c'est pas tout à fait nouveau. Mmh. Par ces boucles de rétroaction active, en fait, le mal qui arrive, et c'est ça qui a à voir, je pense, aussi avec cette idée d'effondrement et d'apocalypse, le mal est renforcé, si vous voulez, par la mécanique du système Terre.
Chloé Cambrelin.
Cécile Renoir, est-ce que vous aussi, c'est votre vous retrouvez dans cette lecture de ce qu'est l'effondrement, c'est votre perception également?
Oui, alors ce qui me frappe, et pour avoir créé il y a 2 ans le campus de la transition, qui est un écolieu en Seine-et-Marne dans lequel nous accueillons des étudiants, des jeunes professionnels qui arrivent parce qu'ils cherchent du sens et qui invoquent souvent les collapsologues pour appuyer finalement leur anxiété.
Il faut citer leur nom à ces collapsologues, ça peut être Pablo Servigne et Raphaël Stevens, voilà, qui ont écrit, donc il y a déjà 5 ans maintenant, effectivement, un premier livre et puis un autre depuis 2 ans sur cette question de la collapsologie, et qui ont mis cela à l'agenda, pourrait-on dire aujourd'hui, de notre discussion.
Absolument, et alors évidemment ils suscitent plein de débats, plein de positions en fait assez différentes les unes des autres, et c'est pour cela qu'il y a eu autant de critiques, je pense, à l'égard de ce discours, parce qu'en fait personne ne voit très bien s'il s'agit de décrire un effondrement qui serait certain et à une date très proche, ou si en revanche il s'agit un peu de faire face à ce que Cynthia vient de décrire, du fait que nous vivons collectivement au-dessus de nos moyens, que d'une certaine manière ce qui est devant nous c'est un certain effondrement de la civilisation industrielle, qu'à la limite ça il faut le souhaiter parce que c'est ça qui conduit l'humanité à sa perte et qui crée déjà une double peine pour ceux qui sont les plus vulnérables et qui sont doublement affectés par les catastrophes qui sont déjà là et face auxquelles ils sont d'autant plus vulnérables et incapables de répondre. Donc pour certains, le discours sur l'effondrement est un discours qui ne serait pas scientifique parce qu'au fait personne ne sait exactement quand aura lieu cet effondrement, qu'il soit financier, économique, culturel, politique, écologique. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant dans le discours sur l'effondrement, c'est précisément la capacité qu'il peut donner à réfléchir aux formes de vivre ensemble que nous voulons valoriser dans nos sociétés. Et finalement, c'est ça, je pense, qui attire tant de jeunes dans le discours de Pablo Servigne, dans certaines descriptions proposées, de ce qui est possible, c'est finalement de renouer avec des formes de liens sociaux qui sont largement délitées aujourd'hui, et de réfléchir à ce qui peut être fait face à cette menace, mais pas pour dire que tout ça est absolument inéluctable, pour dire que nous devons puiser collectivement dans nos ressources à la fois esthétiques, relationnelles, spirituelles, éthiques et politiques, de quoi transformer nos manières de vivre.
C'est une lecture positive, effectivement, de voir que ça peut susciter qu'est-ce que l'on peut faire ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Cynthia Fleury, de vivre avec cette menace? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque, à l'inverse, d'un repli, d'un refuge dans l'individualisme, où ceux qui ont beaucoup d'argent vont aller acheter un terrain où il y a une source, réfléchir à l'endroit sur Terre où il vaut mieux le vivre pour être épargné par le dérèglement climatique, où chacun essaye de sauver sa peau? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ça dans cette...
Il y a les deux, c'est-à-dire que de fait l'effondrement est une manie, une éthique de l'espérance complexe, au minimum on peut dire. Donc, parce qu'effectivement il y a une instrumentalisation de la notion d'effondrement, de la peur, tout simplement, hein. Donc c'est un, là aussi c'est un vieux point, on a toujours instrumentalisé la pleur pour gouverner. Pourquoi? Parce que là aussi ça fait de la réduction du système complexe politique, si j'ose dire, hein. C'est eux, moi, hein. Il y a une espèce de binarisation, protection, pas protection, etc. Donc on voit, l'effondrement
bien.
Il sert à ça, la menace pensée au service de, non pas d'une action de révolution et d'innovation, de l'ingénierie, c'est-à-dire tout ce qui passionne éventuellement les jeunes gens, c'est-à-dire, tiens, au contraire, l'effondrement comme occasion de commencement autre. Mais là, on voit très bien que c'est l'effondrement comme maintien, repli, rétractation de soi, bouc émissarisation d'autrui, et ça, bien évidemment, c'est extraordinairement dangereux. Donc ça, il y a une instrumentalisation politique très forte, populiste, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a une autre instrumentalisation qu'il faut quand même dire, c'est que l'effondrement, c'était la première de vos questions, est-il attirant? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a une esthétique immense. Il y a une fascination, donc c'est le fameux tremendum, le frisson devant le sacré, devant le sublime, devant ce qui n'est pas synthétisable par l'entendement humain, par exemple. La nature voilà, est extraordinairement complexe et nous avançons, c'est ce que nous avons vu avec le premier débat. Mais si vous voulez, il y a une comment dire, l'effondrement est l'objet par excellence pour la dynamique captologique de nos industries culturelles. C'est-à-dire qu'il y a un tel effet de saturation des images, c'est ça notre monde. Tous les jours, nous voyons des images, qui fait qu'il y a une mécanique addictive qui fait que nous avons plus besoin de catastrophes pour adhérer à cette image. Et donc vous avez nécessairement, par le fait de l'industrie de l'image, de l'industrie du spectacle, par l'infotainment, etc., par le continu et le flux, vous avez une demande de captation de l'attention, et bien évidemment la menace, la question de la peur, la question des vulnérabilités nouvelles, la question de l'effondrement, c'est une économie visuelle maximale.
Cécile Renoir, on a vu que Pablo Servigne et Raphaël Stevens avaient évolué depuis qu'ils ont inventé ce terme de collapsologie et que désormais ils parlent de collapsosophie, donc une sagesse de l'effondrement. C'est ce que vous plaidez de votre côté, Cécile Renoir, c'est-à-dire d'une certaine façon, regardons ce risque en face, regardons ce qui peut nous arriver, ça nous permettra de tirer une nouvelle philosophie de la vie et donc, comme vous le disiez à propos de ce campus et de ces jeunes que vous y recevez, de réfléchir à autrement, à vivre autrement que ce qu'on a vécu.
Oui, alors d'une certaine manière, ça rejoint aussi, même s'il y a eu des débats avec Jean-Pierre Dupuis sur ces sujets.
Jean-Pierre Dupuis, rappelons-le, c'est l'auteur de l'auteur Pour un catastrophisme éclairé, qui a pu servir d'une certaine façon de moyen de départ à cette vision, oui, effectivement, de la catastrophe devant nous, mais qui s'est écarté justement de ce chemin tenu par d'autres comme Pablo Servigne ou Raphaël Stevens un peu.
Oui. Alors, la fonction peut jouer la perspective de la catastrophe, c'est justement se dire comment peut-être se préparer à ce qui est d'une certaine manière inéluctable si nous continuons sur nos trajectoires absolument insoutenables. Et ça, je pense qu'il y a une forme de lucidité à avoir face à ce qui est en train d'arriver si nous continuons à être absolument sur des trajectoires contradictoires avec l'accord de Paris sur le climat, être face à une érosion de la biodiversité phénoménale et être voilà, et à parfois nous gargariser de mots et de qui considèrent que oui, tout ça est gravissime, mais qu'en même temps ça ne se traduit pas dans des politiques publiques, dans des stratégies d'entreprise qui intègrent vraiment de façon structurante ces enjeux. Donc là, je crois que par rapport à ce que proposait Jean-Pierre Dupuis, qui était de se dire se mettre face à la catastrophe possible pour éviter qu'elle n'arrive, d'une certaine manière, nous sommes en train de voir que nous sommes presque au-delà. Il faut espérer que nous arrivions, dans les 10 années qui viennent, à réduire très fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Mais honnêtement, tous les clignotants sont au rouge. Voilà. Et donc, chez ces jeunes et moins jeunes qui essayent de proposer d'autres sagesses de vie, il me semble qu'ils ont justement une très grande lucidité. C'est pas un idéalisme béat ou quelque chose qui les projette loin du monde et loin des débats politiques, parce que c'est une autre chose qu'on reproche à ces penseurs de l'effondrement, c'est de dire en fait vous proposez la vie dans des petites communautés conviviales après le désastre et très bisounours. Je crois que c'est absolument pas, en tout cas moi chez les jeunes que je rencontre, c'est absolument pas cette perspective-là. L'idée étant chez les uns de se dire finalement, il faut que j'invente des formes de vie différentes, plus low-tech, à la base, dans des villages, redonner sens à une démocratie participative dans des zones rurales. Alors, évidemment,
c'est ce qu'on voit à Notre-Dame-des-Landes ou dans d'autres endroits,
exemple,
dans les ZAD.
Mais voilà, et c'est aussi en même temps des personnes et d'autres qui sont porteurs de la conviction qu'il y a des rapports de force, qu'il y a évidemment à se battre, à réfléchir aux moyens de le faire. Et là, encore cet après-midi, on avait un débat avec des étudiants sur l'extinction rébellion et les moyens de la non-violence active pour pouvoir essayer de traiter un certain nombre de sujets systémiques. Donc je pense que chez ceux qui parlent de l'effondrement, il y a vraiment une palette de positions, d'attitudes et de postures qui peuvent être, à mon sens, très complémentaires.
Et en même temps, Cynthia Fleurier, vous parliez de ces images de catastrophes qui nous arrivent tout récemment. On pense au feu en Australie, par exemple. Face à ça, ces images, elles nous renvoient aussi à notre impuissance. C'est-à-dire que face à ça, avoir des projets, ça paraît un peu dérisoire. Et quelque part, qu'est-ce que l'on fait de cette impuissance? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de se complaire dedans? Ou se dire finalement, justement, tous les clignotants sont au rouge. Vous l'avez dit, c'est déjà trop tard. Bon. Voilà.
Je crois que quand, je ne veux pas parler à la place, mais je vais quand même le faire de Jean-Pierre Dupuis, il a un peu rétro-pédalé sur son propre ouvrage du catastrophisme éclairé, en comprenant que, en fait, il y avait un effet très comportementaliste de sidération, et la psychologie environnementale et la psychologie tout court peut lui enseigner que, voilà, on ne regarde pas ni le soleil ni le réel de la mort en face. Donc, si on prend très au sérieux ce qui est posé de manière littérale, il y a un effet d'abord de sidération possible, et ou alors de tentative de déni, tout simplement, ce qui est un petit peu la même chose, c'est-à-dire vous vous débranchez de manière cérébrale et émotionnelle. Et il avait fini par dire que voilà, on va transformer la catastrophe, je crois, en mobilier ontologique des civilisations. Voilà, comme si c'était, il y avait un point, dorénavant, ça fait totalement partie du paysage, et c'est comme ça, et de toute façon, historiquement, la catastrophe a toujours eu un rôle régulateur de tabula rasa, précisément parce que on n'arrivait pas à enclencher un vrai changement. Donc oui, il y a ce risque-là. Donc c'est pour ça que c'est, là aussi, je pense que Servigne, quand ils tournent leur notion de collapsologie vers la collapsologie, Sophie, c'est précisément pour montrer toute la phase qui est dite ici, c'est-à-dire de discernement, de construction, d'ingénierie et de refaire lien avec Ostrom, les commons, la gouvernance de ce qu'on appelle l'inappropriable, les nouvelles, effectivement, la démocratie participative, les services écosystémiques au cœur du contrat social, la justice environnementale comme clé de la justice sociale, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, des leviers pour penser le monde et non pas pour être en subjugation devant le malheur qui s'annonce.
Et cela, d'une certaine façon, de grandes philosophies comme le marxisme, par exemple, avait mis à l'ordre du jour cette idée que l'humain pouvait justement prendre en main son propre destin, changer le cours du monde, etc. Est-ce que vous pensez, l'une et l'autre, que ces questions-là sont à nouveau à l'ordre du jour en passant par des détours comme ceux que vous venez de faire l'une et l'autre?
En l'occurrence, les détours sont différents, c'est-à-dire qu'on voit très bien que la prise en main, pour reprendre votre terme, du destin humain, elle doit refaire lien, reconnexion avec un destin qui est en partage avec le vivant. Et c'est peut-être ça le temps civilisationnel qui est le nôtre aujourd'hui par rapport à des temps plus anciens qui ont considéré que voilà, nos systèmes étaient plus anthropocentrés, que l'homme était exceptionnel, mais d'une exceptionnalité qui faisait scission, alors qu'aujourd'hui on peut défendre une exceptionnalité de l'homme du côté de la responsabilité, du côté d'une éthique du vivant, etc. Et ça, c'est un enjeu et un agenda civilisationnel pertinent.
Oui, c'est-à-dire que on n'a plus une vision anthropocentrée, mais biocentrée, par exemple, Cécile Renoir.
Oui, bio ou éco-centrée, avec l'idée que voilà, nous la perspective relationnelle que nous pouvons reconnaître à l'échelle des humains et qui a été mise en avant par tous ceux qui défendaient une forme d'humanisme, eh bien, elle a été élargie à tout le cosmos et à tous les vivants.
Merci à toutes les deux. Merci à vous, Cynthia Fleury. Merci à vous, Cécile Renoir, d'être venue pour ce débat dans le Grand Amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France autour de l'effondrement est-il attirant?
France Culture, la nuit des idées, en public au Collège de France à Paris. Chloé Cambrelin, Emmanuel Laurentin.
Pour notre prochain débat, nous parlons d'immigration pour nous demander précisément si, sur ce sujet, le débat est impossible. Bonsoir François Héran.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, anthropologue, démographe, titulaire de la chaire Migration et Société ici au Collège de France. Pour échanger avec vous, Didier Lesky, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, juriste, ancien préfet et directeur général de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, gouvernement qui dit vouloir allier humanité et fermeté, droite, extrême droite qui parle de laxisme, de chaos, voire de submersion migratoire, gauche qui dénonce une instrumentalisation de ce sujet sans toujours être tout à fait à l'aise avec. Il y a 8 jours ont été publiés les chiffres provisoires de l'immigration pour l'année 2019 avec les réactions habituelles, attendues, connues. Débat impossible, sujet ultra sensible, disiez-vous, dans votre leçon inaugurale en avril 2018, François Héran. Plus encore, sans doute, pour les sujets ultra sensibles, il faut, pour débattre, s'entendre sur les termes du débat. les mots, les chiffres, n'y a-t-il pas là, concernant les questions d'immigration, un premier vrai problème ?
Alors oui, il faut s'entendre sur les catégories, sur les mots, mais je trouve aussi parfois qu'on passe trop de temps à faire la critique des mots qui tombent parfois dans la police des mots. Par exemple, le mot migrant est très attaqué, mais pour nous, les démographes, c'est un terme générique. Et puis, il y a des migrants qui sont des demandeurs de refuge, qui sont certains à parviennent à obtenir un statut de réfugié. Il y a des migrants qui viennent, qui obtiennent des titres de séjour pour des raisons familiales, pour des raisons d'études, parce que ils viennent passer leur retraite dans notre pays, etc. Et donc, on a besoin aussi d'un certain nombre de mots qui soient communs, et notamment à tous les pays entre lesquels il faut faire des comparaisons, qui soient un peu stables dans le temps. Et donc, je trouve que ces discussions ne sont pas si importantes qu'on le dit. Les débats sont beaucoup plus sur le fond, quelles sont les évolutions que l'on souhaite ou que l'on ne souhaite pas. Est-ce qu'on a peur des autres ou pas ? Est-ce que les autres sont de trop ou pas ? Enfin, ce sont là les vraies questions. Depuis toujours, il y a une différence entre les indésirables et les désirables. Hein. Et la méthode républicaine, en principe, essaie d'établir une égalité de traitement, mais sans cesse revient cette idée qu'il y a des migrants plus désirables que d'autres, selon quels critères ? Alors là, oui, le débat devient extrêmement délicat et difficile.
Et vous l'avez, ce débat, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur les mots ou sur les désirables ou les indésirables, Didier Lesquier ?
Pas sur les désirables et les indésirables, mais sur les mots, disons qu'on essaye de sortir un peu de ce mot qui est un peu valise, migrant, parce que nous avons des personnes qui sont différentes et qu'il faut prendre en charge en fonction de leurs différences, par exemple leurs qualifications professionnelles, le type de parcours, et la particularité de la France, c'est qu'elle a une migration qui est liée à ce qu'elle a été historiquement comme puissance coloniale, avec des personnes qui arrivent, parce qu'elles sont francophones, par exemple. On a actuellement beaucoup de personnes qui viennent du monde francophone subsaharien ou du Maghreb, et puis d'autres migrations. Et chaque pays européen a son histoire du point de vue des migrations, et je dirais à la fois des difficultés ou des possibilités qui sont différentes en fonction de cette histoire. Nous, actuellement, nous avons des difficultés. Il faut que nous tenions compte de ces difficultés. Une des difficultés, c'est que...
Lesquelles ?
Nous n'avons pas forcément, sur une partie de la migration, des personnes très qualifiées. Les personnes qualifiées, parce que le migrant, c'est quelqu'un qui évalue en fonction de ce qu'il est, son capital, d'une certaine manière, c'est lui. Il peut choisir d'aller là où il pense que c'est le mieux pour lui en termes d'accès à l'autonomie, c'est-à-dire là où le marché du travail lui sont beaucoup plus favorables. Si, par exemple, il parle anglais, il sait que c'est plus facile de travailler dans les pays d'Europe du Nord ou dans les pays de langue germanique, et c'est plus difficile de travailler en France quand on ne parle qu'anglais. Voilà, il y a des choses comme ça, et je crois que la difficulté que nous avons pour parler de ces sujets, c'est justement le fait qu'il n'y a pas une pensée très affirmée de ce qu'on peut faire en fonction de la situation des personnes, parce que les compétences sont assez variées. Je rappelle que l'État n'est pas compétent pour la formation professionnelle, mais c'est plutôt les régions, qu'il y a des besoins à satisfaire et qu'il faudrait articuler les besoins économiques à satisfaire, les besoins de main-d'œuvre, avec les possibilités de formation et les personnes qui viennent.
Alors, si je peux intervenir, un des aspects intéressants enfin, il y a des choses qui sont objets du débat, ils ne sont pas du tout objets du débat. Par exemple, en ce moment, quand on regarde l'ensemble des titres de séjour qui, chaque année, sont attribués en France, et qu'on y ajoute aussi la libre circulation, c'est-à-dire les personnes qui, membres de l'Union européenne, ont le droit de s'installer dans un autre pays européen, et qu'on compare tout ça à l'échelle de l'Europe, il y a quand même des différences considérables. Les deux tiers des personnes qui s'installent en Allemagne chaque année, les deux tiers sont des ressortissants de l'Union européenne, des Polonais, des Slovaques, des Hongrois, etc. Il y a une attractivité de l'Allemagne en Europe centrale, autour de son environnement immédiat, qui est considérable. En France, c'est pas les deux tiers, c'est un tiers. Ça veut dire que nous sommes deux fois moins attractifs, la France, par rapport au reste de l'Europe, que l'Allemagne. Et l'autre grand pays très attractif, c'était, avant le Brexit, c'était la Grande-Bretagne. Hein, avec la fin de la migration de libre circulation européenne vers la Grande-Bretagne, il y aura certainement un retour, peut-être un gonflement encore vers l'Allemagne, un gonflement vers la France, mais je suis très frappé de voir que de tous les débats qu'il y a sur l'immigration, la question de savoir, tiens, pourquoi sommes-nous deux fois moins attractifs que l'Allemagne? Et ça, ce sont de vraies différences, de vrais débats qui sont en général pas discutés dans le débat public.
Didier Lesky?
Oui, François Héran a des raisons de dire qu'ils ne sont pas discutés. J'ajouterais même que c'est ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir, de certaine manière, de politique européenne, en tout cas, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord entre un certain nombre de pays pour avoir une discussion, je dirais, à plat. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui arrivent? Pourquoi certaines arrivent là et qu'est-ce qu'on fait avec leurs compétences? Pourquoi ceux, par exemple, que l'Allemagne a rejetés massivement, je pense en particulier aux Afghans, viennent après coup en France? Est-ce qu'il n'y a pas une solidarité à avoir entre les deux pays dès lors que, d'une certaine manière, on sait qu'ils ne retourneront pas en Afghanistan et qu'il faudra les prendre en charge plutôt que de continuer à les laisser tourner à travers de l'Europe? Voilà des choses très concrètes, mais chaque pays a son histoire. L'Espagne est aujourd'hui, du point de vue de la demande d'asile, le troisième pays, mais c'est essentiellement avec des latino-américains. Nous sommes entre le premier et le deuxième pays, mais ce n'est pas la même migration que celle qu'on connaît en Allemagne, et c'est vrai aussi pour l'ensemble des types de séjours. Les migrants pensent, donc ils savent qu'en Allemagne, le taux de chômage est moins important, qu'il y a des besoins industriels, alors que nous, nos emplois peu qualifiés ou pas qualifiés ont considérablement disparu. D'une certaine manière, les usines d'automobiles sont de l'autre côté de la Méditerranée, et en même temps, ceux qui arrivent de l'autre côté de la Méditerranée, qui passent par exemple par l'Espagne, les Marocains, ne sont pas les plus qualifiés des Marocains.
Alors, la production savante sur l'immigration et l'émigration a été très importante depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années au moins, que cette production est nombreuse, variée, qu'il y a différentes écoles au sein de cette production savante, et que néanmoins, eh bien, peu semble parvenir jusqu'au plus haut sommet de l'État, et pas simplement maintenant, mais auparavant aussi, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ça ne se traduit pas forcément en politique.
Alors, je pense que les choses évoluent. D'abord, si j'ose risquer l'expression, l'illettrisme statistique de nos dirigeants a beaucoup reculé. Avec le renouvellement de l'Assemblée nationale, par exemple, avec l'ère Macron, il y a un rajeunissement des députés.
Et ils savent mieux lire les statistiques.
Il y a incontestablement un background professionnel chez beaucoup de nouveaux députés qui les rend beaucoup plus sensibles à la qualité de l'information statistique. Je suis très frappé. Par exemple, le raisonnement que je tiens souvent, selon lequel on ne peut pas faire de comparaison en chiffres absolus entre des pays qui ont des tailles différentes, qui est un raisonnement absolument fondamental, enfin élémentaire, oublié par la plupart des ministres, qui raisonnent toujours, qui manient des chiffres absolus pour impressionner le peuple à bon compte, eh bien, j'ai quand même trouvé un nombre important de députés qui sont sensibles à cette idée qu'effectivement, de bonnes comparaisons internationales, ça exige de regarder les données de l'OCDE, de l'Eurostat, etc., en proportion et pas simplement en chiffres absolus. Et pour vous donner une idée de l'évolution que j'ai ressentie, quand même, après toutes les déclarations et les débats du mois de septembre 2019, nous sommes intervenus, les chercheurs, et notamment les chercheurs de l'Institut d'immigration, sur la question de l'AME, sur la question des chiffres, sur la question des facteurs d'attractivité entre guillemets de la France, etc. Et finalement, il y a eu trois commissions, groupes parlementaires qui ont invité des chercheurs. Et au total, 62 députés, j'ai eu l'occasion de parler avec 62 députés, d'écouter des questions d'une cinquantaine d'entre eux. Certains avaient lu des déclarations toutes faites, mais la plupart ont vraiment posé des questions à la suite des exposés qu'on leur a fait. On leur a laissé nos données, ils nous ont recontactés ensuite. Eh bien, c'était la première fois depuis longtemps que j'avais le sentiment que nous étions enfin écoutés par les partis. Alors, c'est dû au fait que le débat divise tout le monde est divisé, l'Europe est divisée, tout le monde est divisé, je dirais que chacun de nos cerveaux est un peu divisé aussi, il faut quand même le dire honnêtement, mais les partis politiques français sont totalement divisés sur la question de l'immigration. Au sein de La République En Marche, vous avez vraiment des sensibilités extrêmement différentes. Mais vous prenez la France insoumise, ils sont complètement divisés sur la question de l'immigration. Et les Républicains, certes,
avec un décalage dans le spectre politique, le sont également. Et dans ce contexte-là, je suis très frappé de voir que finalement, une partie des députés qui essaient de comprendre exactement ce qu'il en est, s'adresse finalement aux chercheurs pour essayer d'avoir une meilleure information, de savoir davantage ce qui se passe et de pouvoir aussi mieux situer la France dans la comparaison européenne. Et ça, c'est nouveau.
Néanmoins, vous disiez encore récemment, François Héran, tout de même, que dans le débat sur l'immigration, il y a malheureusement souvent les données de base sont écartées au profit d'une politique d'opinion. Et vous parlez notamment de ce sentiment effectivement de peur dont vous parlez également Didier Lesky. Et souvent, parmi les politiques, il y a aussi beaucoup d'élus qui s'appuient sur ce sentiment de peur qu'ils prêtent au minimum à une partie de la population face à ces phénomènes de migration. Vous vous dites, Didier Lesky, qu'il faut faire avec l'état du monde et les peurs qu'il peut faire advenir. Alors, quelles sont ces peurs? Comment on les identifie? Comment on les mesure?
Alors, d'abord, il faut, je crois, dire que globalement, le pays se comporte bien et peut-être parfois mieux qu'une partie de sa classe politique, c'est-à-dire qu'il est, dans ses profondeurs, je crois, très accueillant. Et je le dis parce que l'OFI a en charge l'hébergement des demandeurs d'asile qui sont répartis à travers le territoire et qu'il y a globalement très peu d'incidents. Il n'y a pas de foyer de demandeurs d'asile attaqués, comme on peut le voir malheureusement dans un certain nombre de pays. Je crois qu'il faut quand même rappeler ça. Hein, et que les débats, aussi tendus soient-ils, dans des postures qu'on peut avoir ici et là, n'influent pas, alors que notre pays pourrait être complètement traumatisé après la vague des attentats. On sait bien qu'il y a des choses... La deuxième chose, c'est que on a une difficulté et une appréhension, et peut-être une peur, qui est liée au fait qu'il y a une marge dans ces immigrations qui peut poser des problèmes, parce qu'elle vient de pays qui, depuis des années, sont profondément déstructurés. Hein. On peut passer à l'Afghanistan, bien sûr, au Soudan, qui sont...
Des pays en guerre, en guerre civile.
Oui, mais avec des phénomènes sur la longue durée qui influent sur personnes. Et puis, des involutions culturelles qui laissent à penser à une partie de la population que ces acquis sociaux, ces acquis, je dirais, juridiques, pourraient être mis en cause. Et le problème, c'est que le débat sur l'immigration est pris en otage par une marge de l'immigration qui effectivement peut poser problème parce que on n'a plus les mécanismes d'intégration anciens. Il faut sans doute les refaire, les renouveler. C'est ce qu'on discute d'une certaine manière en tant qu'administration. Je ne parle pas de la politique qui n'est pas mon sujet, mais qui est de comment on prend en charge ces personnes alors qu'on n'a plus ce qu'on avait avant, des formes de sociabilité de quartier qui pouvaient aller des municipalités, des colonies de vacances et même, il faut le dire, de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, qui prenait en charge, qui débattait, même de débattre est-ce qu'on accueille ou pas des travailleurs étrangers. C'était des débats qu'avaient les organisations ouvrières quand elles existaient. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est complètement effrité et qui fait qu'on a du mal à rattraper sur certains terrains des personnes qui sont en voie de marginalisation parce qu'elles ne sont pas en situation de travail. Et c'est une donnée importante.
François Héran.
Alors, c'est vrai que les formes de la sociabilité ont changé, elles se sont renouvelées, et c'est vrai qu'à l'occasion de la crise des migrants, entre guillemets, et de la dispersion des demandeurs de refuge dans les centres d'accueil et d'orientation, on a vu se développer des quantités de collectifs. Moi, j'ai été frappé, parce que je vais très souvent dans les régions répondre à des demandes de collectifs d'associations, beaucoup d'associations classiques, comme le groupe départemental de la CIMAD à tel ou tel endroit, a doublé ses effectifs, a connu un regain de recrutement à l'occasion de la crise.
Et ça s'interprète comment, justement ?
Au début, il y a eu l'émotion. La photo du petit Aylan Kourdi, par exemple, a joué un rôle très important. Et puis, après une phase de compassion, les choses s'approfondissent, l'engagement devient plus politique ou plus social, ou les raisons de l'engagement changent. Il y a la confrontation aussi, on suit des dossiers, on les présente à la préfecture, on s'aperçoit que les dossiers très proches reçoivent des décisions extrêmement différentes. Alors ça fait réfléchir les gens sur la façon dont la politique migratoire s'organise au niveau local et les raisons d'agir s'approfondissent. Je suis très très frappé de voir ce mouvement social profond. En même temps, qui compense aussi le fait que, contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne, nous n'avons pas de grandes organisations caritatives, puissantes, alimentées par l'impôt ecclésiastique, alimentées par un système concordataire, etc. Nous avons trop souvent l'impression que c'est à l'État de s'occuper de l'accueil des réfugiés. L'État lui-même se défausse sur les associations, mais sans vraiment toujours les aider. Et ça fait que le mouvement associatif est relativement faible chez nous, même s'il est vaillant localement.
Didier Leschi ?
Le combat de soutien aux travailleurs immigrés, il est très ancien. Ce qui a changé, je crois, dans la perception, c'est le fait que dans le vocabulaire, on est passé du travailleur immigré au migrant, c'est-à-dire on a perdu dans l'intitulé l'utilité sociale de la personne qui vient. La deuxième chose, c'est que il y a, et François Héran le dit, une sorte de défausse, c'est-à-dire il y a cette idée à la fois que l'État doit tout faire, et en même temps, on lui reproche de ne pas tout faire. Mais l'État ne peut pas créer le lien social.
Je pense, pour reprendre un peu une des choses qui vient d'être dites, que la vision utilitariste de l'immigration qui règne encore, hein, qui inspire un certain nombre de programmes politiques consistant à dire, finalement, prenons juste les migrants dont l'économie a strictement besoin.
Les quotas.
La question des quotas, évidemment. Cette vieille idée, bon, je crois que cette conception utilitariste ne vaut plus. En réalité, l'immense majorité des migrants qui entrent en France entrent parce qu'ils en ont le droit. Il y a aussi toute la question des étudiants, dont le nombre progresse très fortement. Et il y a une espèce...
Cette année, en 2019, plus important que le regroupement familial.
Oui, oui.
Le nombre d'étudiants est plus important.
Voilà. Et donc là aussi, il faut réfléchir à tout ça. Je pense qu'en réalité, le véritable argumentaire en faveur de l'immigration doit se fonder sur la logique des droits et pas sur une logique utilitariste qui, elle, varie au gré de la conjoncture.
Merci en tous les cas à tous les deux. Merci à vous, François Héran. Vous êtes sociologue, anthropologue, démographe et titulaire de la chaire Migration et Société du Collège de France où nous nous trouvons ce soir. Merci à vous Didier Leschi, vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
France Culture, la nuit des idées, en public au Collège de France à Paris. Emmanuel Laurentin, Chloé Cambrelin.
Dernière discussion de cette série de débats ici au Collège de France, donc dans la salle Marguerite de Navarre. Affaire Polanski, affaire Maznev, affaire Enel, notre automne a vu se développer de nombreuses polémiques qui ont remis en cause le statut singulier qui était admis par beaucoup jusqu'à il y a peu de temps, d'auteurs et d'artistes pour les ramener au sein de la loi commune. Nous allons en discuter ce soir avec nos deux invités, avec Christine Angot, qui est écrivain, avec Pierre-Michel Menger, qui est professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Sociologie du Travail Créateur. Peut-être pour commencer avec vous, Pierre-Michel Menger, vous notez, et vous le dites dans vos cours ici, que l'artiste, l'écrivain, l'auteur, c'est un virtuose de la limite et de la loi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? On lui a accordé ce droit d'aller aux limites, là où peut-être le commun des mortels ne va pas ?
Je pense que l'exercice de la création, c'est l'exercice de l'imagination, c'est-à-dire de passer à travers le réel, non pas de l'imiter, mais de le dépasser et de l'inventer. Après tout... Qu'est-ce que c'est que le nouveau, si ce n'est une émergence, c'est-à-dire se détacher d'un réel et inventer quelque chose. Donc le réel étant le cadre normal de l'exercice de la pensée des limites, l'artiste par destination ou même par fonction est là pour inventer autre chose. Alors après, quelle est la matière exacte de cette invention et comment est-ce qu'il s'en empare ? Il y a quelques objets majeurs de la création artistique, le réel social, le réel sexuel, le réel racial aussi, et un certain nombre d'objets majeurs, et l'acte d'écrire lui-même. Les artistes aimeraient beaucoup connaître leur processus de création et réfléchissent beaucoup à leur travail pour se libérer un peu de la charge mentale qui consiste à inventer et à franchir des limites, à transgresser, c'est-à-dire à aller au-delà de ce qui existe, y compris d'eux-mêmes.
Christine Angot, vous êtes d'accord pour cette... ce qualificatif, pourrait-on dire, cette façon de qualifier l'artiste ou l'auteur ?
La question pour un artiste, c'est d'inventer une manière de dire le réel. C'est ça qui est compliqué. Si on essaye chacun de nous de dire ce qu'on voit ou ce qu'on sait du réel, on n'y arrive jamais. C'est extrêmement compliqué. Donc il faut inventer, il faut trouver comment dire le réel, ce qu'on sait. Déjà, il faut savoir ce qu'on sait. Et ensuite, pouvoir le dire. Et du coup, étant donné que l'objectif, c'est ça, la difficulté, c'est ça, comme on ne peut pas être partout, la question n'est pas de changer le réel. Hein, parce qu'il y a un champ, c'est un espace, c'est une géographie, c'est un pays. L'art, la littérature, c'est un pays, c'est comme un pays. Donc, c'est logique qu'il n'y ait pas tout à fait les mêmes lois, hein, puisque c'est normal aussi, puisqu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de recherche de changer le réel. Si ça change, bon, ça change, très bien, mais ce n'est pas ça que recherche un artiste. Il cherche juste, ce n'est pas grand-chose, juste à dire comment c'est.
Pierre-Michel Menger.
Oui, si on veut, si je me réfère au titre que vous avez donné à ce dialogue, la liberté et les lois, qu'est-ce que c'est au juste que cette liberté? Ça n'est pas une liberté abstraite, c'est une liberté d'invention. J'en ai parlé, et Christine Angot en a parlé dans ses termes. C'est classiquement d'ailleurs, si je reprends les termes de Christine Angot, c'est l'idée de la création de la forme. Et la création de la forme ne peut pas être une répétition de la forme, par définition. La matière, elle, est une chose, mais la création de la forme, elle est une autre. C'est d'ailleurs très exactement ce par quoi on distingue la liberté d'expression de la liberté de création et de la liberté de penser. La liberté de création, elle est rigoureusement liée à cette production d'une forme. L'expression, c'est des contenus qu'on communique. Et la pensée, ça peut ne même pas être communiqué ou produit sous forme d'œuvre. La création, c'est l'œuvre. Et c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs la loi de 2016 dans ses deux premiers articles.
Sur la liberté de création, justement.
Oui, là, c'est une loi un peu fourre-tout qui traite de beaucoup de sujets, mais celui-là, il est assez bien cerné. Et cette création de forme, c'est évidemment un des grands sujets. C'est ce qui fait que les objets de création sont aussi candidats à cette particularité remarquable de nos productions humaines, c'est la durabilité. Il y a assez peu d'objets dans nos mondes à nous qui traversent les siècles, et les œuvres d'art font partie de ces objets mystérieusement, et pas mystérieusement du tout, c'est-à-dire qui s'arrachent à leurs conditions de production, à leurs limites, aux limites dans lesquelles elles peuvent être inscrites et figées en quelque sorte par leurs conditions sociales, économiques ou de production, et qu'elles sont transportées à travers des contextes pourvu que les publics les réinterrogent chaque fois et d'une certaine manière transforment les limites de ces œuvres à leur tour et soient des partenaires qui réinterrogent et qui adressent des questions pour en quelque sorte déformer les œuvres, les transformer et se les approprier chacun à sa manière.
Chloé Cambrelin.
Christine Angot, pour venir à l'une de ces affaires qui nous ont inspiré ce titre, ce sujet de discussion, vous avez écrit dans Le Monde, au moment de la sortie du livre Le Consentement de Vanessa Springora chez Grasset, une tribune où vous disiez, vous écriviez à Gabriel Matzneff, vous preniez vos désirs pour des réalités, ce rapport au réel dont vous parliez tout à l'heure. Vous écrivez dans cette tribune qu'il a pensé, lui, écrire le réel, mais sauf qu'en fait, ça n'était pas le réel, puisque il ne savait pas ce qu'il y avait dans la tête de Vanessa Springora. Mais dans cette tribune, vous écrivez aussi, vous racontez que vous l'avez croisé un jour quand vous aviez 25 ans, vous étiez à Paris, voilà, vous traversez le boulevard Saint-Michel, vous le voyez, vous allez lui dire « j'aime vos livres », et ensuite, vous dites « c'était pas ça, à cette époque-là, je les aimais déjà plus, mais on va pas voir quelqu'un en disant « j'ai aimé vos livres ». Et ensuite, vous dites « ce que j'aimais, c'était écrire, l'écriture, le traitement du réel par l'écrit, voilà ce que j'aimais, j'ai confondu avec vous ». Christine Angot, ce débat pour vous sur l'homme et l'artiste, est-ce qu'il a un sens? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il est pertinent?
Ah bah oui, bien sûr. Il est fondamental, puisque c'est la question... C'est exactement la question qui découle du champ. Hein? Encore une fois, c'est une géographie. La littérature n'est pas partout. Hein? Là, il n'y en a pas, vous voyez, par exemple. Bon. Alors, elle n'est pas partout. Elle est dans un espace très physique. Hein? Donc, dans cet espace physique, c'est l'espace où l'artiste, en effet, se déploie, enfin, a fait quelque chose et par ailleurs évidemment que c'est un homme, c'est une personne et c'est totalement différent. Il y a une histoire qui est rapportée par Stendhal en 1822 ou en 1823 qui est mais très éclairante. C'est l'histoire du soldat de Baltimore. Bon, en 1822 à Baltimore, il y a la pièce Othello qui se joue. Très bien. Il y a un soldat qui est en faction. Voilà ce que dit Stendhal.
Le soldat qui était en faction dans l'intérieur du théâtre de Baltimore, voyant Othello qui, au cinquième acte de la tragédie, allait tuer Desdémone, s'écria « Il ne sera jamais dit qu'en ma présence un maudit nègre aura tué une femme blanche. » Donc, au moment où il dit ça, il prend son arme et il tire sur l'acteur qui joue Othello, parce que c'est son travail, et évidemment, il le blesse. Donc, il faut bien faire attention aux frontières, c'est ce que je veux dire.
Oui, là, vous parlez du public, et des problèmes d'identification, etc. Un vieux problème de la tragédie, comme on sait. Moi, je veux dire aussi que ces affaires d'actualité assez brûlantes, je dois dire, qui sont assez terrifiantes quand on dispose maintenant de toutes les archives. Allez regarder les archives, elles sont incroyablement éloquentes et elles nous révèlent à nous autres aujourd'hui avec la conscience que nous avons et qui évolue évidemment. Il y a une leçon de variabilité dans le temps, des attitudes à l'égard de tout ce qui a été fait dans les années 60, 70 sur les sujets clés de la pédophilie, de la délinquance sexuelle, des mineurs, etc. Tout ça fait l'objet maintenant d'investigations. Cécile de Kervas-Douai a fait un magnifique reportage sur France Culture, c'est un bijou absolu. Et donc, on voit là agir, quand on le voit, on a le sentiment que la violence, c'est-à-dire le comportement de l'artiste, est aussi en cause. L'artiste n'est pas un humain par-dessus les humains. L'imagination au pouvoir, d'accord, mais pas l'imagination comme pouvoir, et comme pouvoir sur autrui, et comme pouvoir de violence sur autrui. Et là, on entre dans une zone qui est quand même à explorer sérieusement, parce que on peut avoir la liberté de créer, mais pas la liberté de faire violence à autrui, dans n'importe quelle condition. Regardez les grands procès sur la littérature. Flaubert, c'est l'adultère. Baudelaire, c'est l'érotisme. Et puis, tout d'un coup, on tombe sur des situations qui sont beaucoup plus délicates et juridiquement qualifiables, qui sont, par exemple, des questions de délinquance sexuelle ou de pédophilie. Là, on a franchi des crans. Et avec des effets de libération au nom de l'artiste peut, au fond, tout essayer, tout expérimenter. La littérature et le mal sont consubstantiellement liés, peut-être. Et puis, on s'aperçoit qu'on le fait, en quelque sorte, en atteignant autrui. S'atteindre soi-même et agir, présenter son comportement comme transgressif, ça, c'est une chose. Mais atteindre autrui, c'en est une autre. Et là, on est sur un autre terrain.
Non,
on ne cherche pas du tout à atteindre autrui. On cherche à atteindre les choses. Les choses qui sont. Moi, je vais vous dire, tout ça est en train de changer et c'est formidable. Et c'est très important. Les histoires de viol, les femmes, les enfants, c'est exactement... Il y a eu une période où l'esclavage, par exemple, c'était possible. On trouvait que c'était normal qu'il y ait des gens noirs qui travaillent pour rien. Voilà. À un moment, ça s'est arrêté. On s'est dit, ben non, finalement, ça va pas, faut arrêter ce truc-là. Bon, fin de l'esclavage. En tout cas, juridiquement. Ben là, c'est pareil. Les femmes, les enfants, une sorte d'esclavage sexuel là, et ben voilà, ça c'est pareil, ça passe plus. Voilà, c'est terminé. Est-ce que pour autant, on doit, nous, se dire qu'est-ce qu'on est bon à notre époque et qu'est-ce qu'on a bien compris et qu'est-ce qu'on a bien entendu? Parce que qu'est-ce qu'on comprend exactement aujourd'hui de ce qui se passe? Alors calmons-nous, on n'est pas si bon que ça.
Pierre-Michel Menguer.
Oui, d'abord... Que ça concerne les femmes et les enfants, c'est important. Les enfants, notamment, ont toujours été l'objet, un sujet de tout ce qui a été la régulation de la production littéraire par les lois sur la censure et des questions comme ça. Il se trouve que la morale a évolué beaucoup et que les ouvrages qui pouvaient être censurés autrefois ne le sont plus du tout aujourd'hui. Donc la morale, elle suit son cours et on peut qualifier la morale de bien des manières. C'est une forme d'universalité restreinte à des sociétés, si on veut, mais qui fait que l'égale dignité des individus mérite la considération et un certain nombre de manières d'être ensemble. Mais ce qui est différent, c'est l'attitude qu'on peut avoir à l'égard des comportements des artistes. Il y a dans le monde des arts certainement une forme d'aristocratisme de la transgression. On le trouve même dans la célébration de Sade, par exemple. Sade, au fond, c'est celui qui méprise toutes les conventions et qui fait violence et qui montre que les limites ne sont pas quelque chose d'inintéressant à explorer. Et quand on voit les éloges de Sade, on voit aussi se glisser toujours derrière une sorte de critique de la petite moralité, petite bourgeoise, qui est étriquée dans ses limites et qui n'ose pas aller plus loin. Ça, c'est une assez grande constante depuis 2 siècles. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les victimes peuvent parler maintenant. Et ça, c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que le charisme artistique ne peut pas tout se permettre. En ce sens-là, l'artiste est un humain comme les autres. Et l'artiste, pourtant, a gagné ses galons de noblesse extraordinaires en matière de liberté en étant le héros ahuté de la liberté quand il s'élève contre le totalitarisme, quand il s'élève contre la haine raciale ou l'antisémitisme. Ce sont des sujets absolument magnifiques. Donc, voilà, l'artiste est dans une position délicate aujourd'hui parce que il est rattrapé en quelque sorte par différents plans qui se sont déplacés les uns par rapport aux autres.
Chloé Cambrelin.
Et les victimes peuvent parler. La question, c'est aussi comment sont-elles entendues. L'actualité, c'est aussi le film « J'accuse » de Roman Polanski qui est en lice pour 12 prix au César. C'est tombé ce matin et ça suscite beaucoup de réactions. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans ce rapport entre les...
Alors, oser le féminisme dépense beaucoup d'énergie à s'occuper de ce film « J'accuse » où il est question de l'affaire Dreyfus. Très bien. Dites-moi si vous avez entendu oser le féminisme au sujet d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Mila, qui est actuellement menacée de mort, de viol, dans les termes les plus inquiétants, plus qu'inquiétants. Ils sont où elles sont?
Pour avoir critiqué violemment l'islam sur les réseaux sociaux, on en explique juste.
Où sont les associations de femmes? Pourquoi elles ne s'occupent pas de cette jeune fille? Pourquoi? Alors que c'est une question sexuelle aussi.
La question, c'est est-ce qu'il y a une spécificité française dans ces débats sur la séparation entre l'œuvre et l'artiste, l'homme et l'artiste?
Je vais un peu déplacer le terrain pour essayer d'enrichir le débat par un autre exemple. Je viens de publier dans Annales un compte-rendu ou une note critique sur un livre sur Wagner et l'antisémitisme. Et cette question de est-ce qu'on mélange ou on sépare l'homme et l'œuvre est une affaire qui est constante. Et la seule manière de traiter ça, c'est de traiter le problème en l'explorant complètement, c'est-à-dire en ne laissant rien dans l'ombre. Donc il ne faut pas d'implicite, il faut déclarer et il faut mettre ces critères, ces valeurs sur la table et dire voilà pourquoi je juge telle ou telle chose. Et les positions sont extraordinairement diverses sur cette affaire de Wagner à l'antisémitisme. Wagner a publié un livre qui s'appelait « Das Judentum in der Musik », les Juifs dans la musique, et c'était ouvertement antisémite. Et il l'a d'abord publié de manière anonyme, puis ensuite il l'a republié sous sa signature. Et il avait beau être baigné dans un climat peut-être antisémite à l'époque dans l'Europe et en Allemagne, mais il l'a exagéré et il en a fait une arme militante. Donc tout ça, ça veut dire que la France n'a pas beaucoup regardé ça. Il y a très peu d'articles sur ce sujet-là dans la littérature française. Ce sont les Américains qui sont allés déterrer ce sujet et qui sont allés creuser avec leur pragmatisme et leur méthode d'enquête sans avoir aucune espèce de tabou. Il n'y a pas à avoir de censure du champ, comme dirait l'autre. On n'a pas la solution pure et parfaite. Un salaud comportementalement est peut-être un grand artiste. Et on en a beaucoup d'exemples. Ce sont des tableaux à 4 cases. On peut être un artiste nul et être aussi un salaud, etc. etc. Donc, il faut agir avec analytiquement, avec beaucoup de précision et mettre tous les objets du débat sur la table.
Vous êtes d'accord, brièvement?
Alors, moi, je vais vous dire une chose. S'il y a plus d'implicite, moi, je ne vais plus dans un musée, ça ne m'intéresse pas. Je ne lis plus de livres, ça ne m'intéresse pas. L'implicite est ce qui permet de dire. Donc, s'il n'y a pas d'implicite...
De dire ce qu'on voit, ce qu'on pense...
De dire ce qui est indicible.
Voilà.
Il y a quand même beaucoup de choses indicibles. L'art est fait pour dire l'indicible. Alors, moi, la méthode américaine, elle aboutit à quoi? Elle aboutit, l'implicite, je vois le verrou de Fragonard, le tableau de Fragonard. Vous savez qu'on n'a plus le droit de le regarder.
Ce tableau,
vous
donc...
Vous savez que c'est une histoire de viol, soi-disant?
Oui,
ou un homme. Parce qu'il y a des gens qui interprètent les tableaux, les œuvres, les films, les livres. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre lecture. C'est nous qui les interprétons. C'est nous qui leur donnons la vie. Et si on commence à dire que de réduire les choses comme ça, c'est très grave.
Mais le conflit des interprétations, c'est la vie de l'art.
Absolument. Alors donc, il ne faut pas figer.
Merci à tous les deux. Merci à vous, Christine Angot. Merci à vous, Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France, titulaire à la chaire sociologie du travail créateur. Et merci à tous ceux qui nous ont accueillis au Collège de France ce soir. Merci également à Marie-Julie Bourdeau, à Laurence Audrin du service communication de France Culture, à Reynald Bellet du Collège de France. Et le temps du débat, c'est bien sûr Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Thibaut Dassimben, Mathieu Leroy, Rémi Gouriot et à la réalisation, Émilie Vallin. Et un grand merci à Chloé Cambrelin de m'avoir accompagné pendant toute cette soirée ici au Collège de France.